Parrain présente Vue du banc avec Christophe Kuchli, Raphaël Cosmidis et Florent Tenuti.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 27e épisode de la saison 9 de Vue du banc. On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie du conseil de classe de la Ligue 1. Après avoir étudié les 10 derniers du championnat, on va se concentrer sur les 10 premiers et je suis accompagné des deux toliers habituels, d'abord de Christophe Kuchli. Salut Christophe.
Salut Raphaël, bonjour tout le monde.
Et de Florent Tenuti de l'autre côté, salut Flo.
Salut Raphaël, salut à tous.
Donc une journée s'est déroulée depuis l'épisode précédent du conseil de classe où on avait fait les 10 derniers, vous pouvez aller les réécouter, c'était avant la 37e journée. On a maintenant plus qu'un seul match avant la clôture de cette saison de Ligue 1 et on va se consacrer à la première partie de tableau en donnant pas forcément des notes mais au moins des appréciations qui ont été préparées pour certaines. Je sais que Christophe Kuchli a beaucoup travaillé sur cet épisode donc on a des choses à dire et on va commencer justement chez Christophe Kuchli, chez le 10e du championnat. C'est le LOSC avec 54 points en 37 journées, 14 victoires, 12 nuls, 11 défaites, 46 buts marqués, 46 buts encaissés. La saison la plus, sur le plan, je parle vraiment domestique, la saison la plus neutre possible, Christophe.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que le LOSC a encore plus accompagné mes semaines que les années précédentes, puisque j'ai fait des podcasts qui s'appellent 100% Lille chaque semaine.
Sur Weo, on le rappelle.
Qui sont aussi diffusés en télé sur Weo tous les lundis matins. Donc à chaque fois, je suis dans un très bel état. Je dis pas ça pour raconter ma vie, mais pour dire que du coup, toutes les semaines, pendant les 40 dernières semaines, j'ai dû passer une vingtaine de minutes à parler du jeu du LOSC, à regarder les matchs du LOSC, etc. Et je t'avoue que depuis plusieurs semaines, on commence à être un petit peu en panne de sujet. C'est dans ce moment-là qu'on se dit, heureusement qu'on fait pas un 100% Montpellier ou un truc comme ça, où vraiment ça fait 3 mois que le championnat est terminé. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que la saison lilloise, je l'ai quand même suivi d'assez près. Et j'ai quand même pas été hyper emballé par ce que j'ai vu. Et enfin, vraiment, du coup, on est amené à discuter à la fois à l'antenne et en off avec les autres gens qui suivent le club des bons moments, des mauvais moments, etc. Et honnêtement, le nombre de bons matchs de cette équipe lilloise sur le plan pur du championnat, la Ligue des Champions, c'est un petit peu à part. Il y en a pas énormément. Il y a notamment un match face à Marseille qui a été excellent. Sinon, c'est assez difficile de retenir à la fois quelque chose d'intéressant sur le plan collectif. Sur le plan des individualités, il y en a une ou deux qui ressortent, mais c'est plutôt sur la première partie de saison, notamment Jonathan David qui a vraiment porté cette équipe. Et troisièmement, sur le plan de l'évolution, des idées, etc. Ok, Jocelyn Gourvennec marche dans les pas de Christophe Galtier, on change pas le système, tout va bien. Mais ça fait 4-5 mois qu'il n'y a pas d'évolution positive, elle est même plutôt négative, c'est même pas une stagnation. Et on se dit quelle est la patte du coach sur cette équipe. Donc il n'y a pas vraiment d'individualité à ressortir sur les derniers moments. La patte du coach se voit pas, il n'y a pas vraiment de match marquant, c'est, encore une fois, c'est ce que tu disais, ça rend une saison extrêmement neutre, et ce qui est quand même super embêtant pour un club qui était champion de France en titre.
Flo, toi qui as bien connu Jocelyn Gourvennec du côté de Bordeaux, est-ce que la neutralité n'est pas quelque chose qu'on pouvait déjà lui reprocher à l'époque, où on sent pas vraiment de principe fort, où on sent pas une patte qui s'impose aux joueurs et même à l'entièreté du club? Quand tu passes après Galtier qui avait quand même un style de jeu assez marqué et qui avait été aidé par Campos, on a l'impression qu'il y a aussi une perte d'identité et de repères à Lille.
Oui, après bon, du côté de Bordeaux c'était un système différent, c'était un 4-3-3 avec des deux milieux relayeurs qui se projetaient énormément et des ailiers qui étaient là pour faire des différences, fixer et créer de l'espace pour les autres. C'était l'époque Malcolm, notamment Malcolm d'un côté pardon, et Camano de l'autre. Mais bref, pour revenir à Lille, moi je pense qu'il y a aussi une histoire de fin de cycle, c'est-à-dire que Gourvennec arrive, prend cette équipe et veut surfer sur ce qu'a fait Galtier en gardant le 4-4-2. Pourquoi pas, l'effectif était en partie taillé pour ça, il me semble. Mais je pense aussi que tu as ce côté où tu arrives au bout d'une histoire avec cet effectif-là, une histoire qui a atteint son apogée l'année dernière avec le titre. Et comment aussi tu peux réussir à remotiver ce groupe qui, de toute façon, sait que à la fin de la saison, il allait être démantelé, et c'est ce qui devrait se passer cet été. Et en plus, ils pourront pas faire mieux que ce qu'ils ont fait sur la saison d'avant. Donc je pense qu'au-delà de l'aspect, en plus des aspects qu'a évoqué Christophe, il y a aussi ce côté fin de cycle où, à mon avis, ça a été très compliqué, et c'est pas pour le dédouaner, hein, c'est aussi la force d'un coach de réussir à fédérer et remotiver des joueurs autour de nouveaux objectifs. mais je pense que la situation était très compliquée, et Gourvennec ou un autre, surtout en plus en conservant les bases qu'avait laissé Galtier, je pense que tu allais te heurter à un truc qui fait que bah, mentalement c'est difficile de demander à des joueurs qui ne pourront pas faire mieux de repartir sur une saison et d'être compétitif. Donc je pense que ça aussi ça a pas mal joué.
Si tu avais été le directeur sportif du LOSC, Flo, toi t'aurais plutôt recommandé une rupture pour éviter justement la gueule de bois post-fête du titre et le fait qu'il n'y ait plus vraiment de sens à cette mission. Pour mettre après c'est difficile financièrement aussi pour lui de tout changer, mais au moins dans les idées de jeu.
Bah, c'est difficile à dire, je pense que Christophe sera mieux placé. Après c'est vrai que tu peux reprocher à Gourvennec de rien avoir tenté sur le plan du jeu et de l'animation, parce que il y a peut-être eu des moments, je crois, où ça tentait de passer à 3 sur des phases avec ballon, des choses
ouais,
comme ça.
ça se déformait un peu, ouais. Mais il y avait une volonté aussi à l'intérieur du club chez certains de miser sur autre chose, Christophe. Je sais pas si tu peux appuyer là-dessus, mais il me semble qu'à un moment ça voulait jouer autrement là, dans le club.
Ouais, bon, déjà, se déformer avec ballon, même Galtier le faisait, hein, ouais. Le fait de relancer à 3 avec Celik, latéral droit, qui était troisième central, et Reinildo, Bradaric, le latéral gauche titulaire, avait tendance à monter, donc du coup, prenait le couloir, Bamba et l'ailier gauche passaient demi-espace, donc ça, Gourvennec a fait parfois des légers ajustements, mais bon, il a pas non plus changé énormément de choses de ce point de vue-là. Il y a eu par moments des mini discussions, enfin des choses comme ça sur le fait de changer de système. Maintenant, les seules modifications là qu'il y a vraiment eu sur le plan structurel, c'est vraiment minime, hein, parce que c'est parfois une question uniquement sémantique. Passer du 4-4-2 au 4-2-3, hein, quand je dis que c'est uniquement sémantique, c'est-à-dire que bah tes deux attaquants, quand il y en a un qui décroche beaucoup, finalement, c'est un peu comme si tu jouais avec un numéro 10. Là, le fait est que ça se retrouvait quand même dans les profils, quand tu mettais Onana ou Renato Sanchez numéro 10 derrière l'attaquant. Là, t'avais vraiment eu un étagement avec un milieu derrière un attaquant. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été tentées, juste quand même pour être complet malgré tout. Alors ça s'est un petit peu tassé sur la suite de la saison. Maintenant, sur les statistiques avancées, Lille est extrêmement bien. Alors les modèles sont tous un peu, enfin, ont tous leur part de subjectivité. Ouais. Hein. Mais sur Understat, par exemple, Lille est deuxième aux expected points derrière le PSG. Alors c'est extrêmement serré. Hein. Il y a 3 points d'écart entre Lille et Strasbourg, qui est sixième. Mais il faut dire aussi que il y a une forme de contre-coup. Il y a eu la surperformance totale la saison dernière avec Bourak dans une surface et avec Malik Maignan dans l'autre. La Bourak est portée disparue et je pense que c'est la pire surperformance de l'histoire du championnat ou pas loin sur la finition. Alors, et le gardien n'est pas très bon.
Je te donne les stats de Bourak. Il est à, sur Understats, il est à 11,2 XG et il n'a marqué que 5 buts. Je t'en donne deux autres. Jonathan Bamba, 3,43, il a qu'un seul but. Timothy Weah, 3,42, il a qu'un seul but.
Bon, ça c'est plus logique, mais...
oui, on est plus habitué. Et du côté des gardiens, ça a coûté cher aussi. Donc il y a vraiment une inefficacité dans les deux surfaces qui explique que Lille est l'équipe la moins bien payée du championnat quand on regarde les stats avancées, en tout cas selon Understat. Puisqu'ils auraient dû marquer 54 buts et qu'ils en ont inscrit 46, ils auraient dû prendre 36, ils en ont pris 46. Donc, ça fait quand même un sacré différentiel. Et sur les points aussi, où ils perdent 10 ou 11 points là-dessus.
Ouais, et en gros, comme le disait Christophe, l'année dernière, t'avais vraiment cette surperf avec Galtier, où je pense que c'est peut-être une des plus grosses surperf de l'histoire du championnat depuis qu'Understat les prend. Avec aussi,
il y avait Monaco en début.
Le Monaco et le Lyon aussi de Genesio à l'époque, où c'était assez fou. Mais là, t'as un peu l'effet contraire. Et je pense que la vérité, c'est que Lille, au lieu de faire 10, ils auraient fait 6-7 en étant dans la moyenne. Et ils auraient peut-être espéré et cru à l'Europe jusqu'à la dernière journée. Je suis pas sûr qu'il aurait eu, mais je pense que c'est la vérité se situe entre le titre de l'an dernier et cette dixième place, je pense.
Bon, on verra ce que donne Lille cet été, puisqu'il va y avoir un gros chantier, que Gourvennec n'est pas sûr de rester, qu'ils savent pas vraiment quel entraîneur ils vont nommer, puis l'effectif va pas mal se renouveler aussi. On aura l'occasion d'en reparler, pourquoi pas faire un jeu de directeur sportif pour Lille un de ces jours. La 9ème place est détenue par... Oui, tu voulais
Raphaël,
dire un dernier truc, Christophe.
L'appréciation.
Bah, en fait, tout l'intérêt de l'épisode, c'est
l'appréciation
de
Christophe Kuchli, évidemment.
Bah, pas que la mienne, hein, mais
non,
c'est...
Non, oui, mais la tienne est préparée. J'avais oublié ce petit rituel. Alors, allez-y, et on commence par le régional de l'étape, Christophe. Alors, l'appréciation sur l'île.
J'ai mis, arrêtez de vous reposer sur vos acquis, il faut se mettre au travail.
C'est pour Bourak, ça, surtout, ou pas?
Non, mais c'est aussi pour tout le club. Enfin, voilà, ça essaye de faire la même chose, des acquis qui finalement n'en sont pas tellement. Ouais. Donc non, essayez de vous renouveler. Pourquoi pas de faire lancer des jeunes aussi, puisque là, il y a un joueur de 16 ans qui a été lancé ce week-end, premier joueur du centre de formation à jouer depuis très longtemps avec le LOSC, donc ça peut être bien aussi d'essayer de renouveler par le centre de formation s'il y a 2-3 mecs qui toquent un petit peu à la porte.
Florent, ton appréciation pour le LOSC?
Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter, il faut en effet tourner la page, point, et passer à autre chose, parce que c'est vrai qu'à la maison, c'est plus les mêmes patrons, c'est plus les mêmes parents, et du coup, faut oublier les précédents, quoi, voilà.
Avec Christophe Galtier qui a donné son appréciation aussi.
Oui, d'Olivier Létang.
Olivier Létang, ouais. Dans la presse.
Dans la Voix des Sports. Achetez la Voix des Sports si vous êtes dans la région lilloise, ça me permettra de manger.
Ok, mais on va y penser, Christophe. 9e place, donc je disais le FC Nantes, qui vient de remporter la Coupe de France il y a quelques semaines, qui finit la saison avec, enfin il reste une journée, mais qui après 37 journées a 15 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 54 buts marqués, 47 buts encaissés, 54 points au total comme Lille. Une très belle saison, Flo, parce que ça part de loin, parce que c'est une équipe qui l'an dernier s'est maintenue au dernier moment, une équipe qui en revanche est bien payée. Quand on fait le contraste avec Lille, parce que des belles performances devant, des belles performances derrière, mais c'est la meilleure saison du FC Nantes depuis, je dirais depuis 18-20 ans, en fait. Je vois pas d'autres saisons qui peuvent rivaliser, alors peut-être la remontée en Ligue 1, mais c'est pas aussi puissant qu'une Coupe de France et un maintien assuré tranquillement, et même à un moment de la saison, une tentative de se qualifier pour l'Europe via le championnat.
Ouais, non, très très belle saison, surtout équipe qui peut être enthousiasmante grâce à ses individualités devant, hein. Après, il n'y a pas de révolution sur le plan tactique. Comboiré a réussi à fédérer. Je parlais tout à l'heure de la difficulté qu'avait Gourvennec de fédérer, je pense, un groupe en fin de cycle. Comboiré, c'est l'inverse. Il a pris l'équipe après Domenech. Il a réussi à créer quelque chose déjà sur la deuxième partie de après, saison dernière.
C'était, en passer après Domenech et passer après Galtier.
Oui, ça facilite peut-être un peu
peut-être
le travail.
Deux moments différents dans ta vie.
Mais le fait est qu'il a réussi à créer quelque chose sur les 6 mois. Enfin, je sais même plus, il est nommé en février, je crois, la saison dernière ou quelque chose comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que sur la fin de saison 2020-2021, il avait déjà réussi à créer quelque chose avec cette équipe pour les sauver, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à surfer sur cette vague en conservant des joueurs importants déjà sur la fin de saison dernière, notamment Colomoini qui partira gratuit cet été. Mais le fait qu'ils aient réussi à le garder, ça a quand même facilité les choses. Et ensuite, c'est une base qui n'a pas trop bougé, et surtout quelques matchs dans la saison où on a vu un très très beau visage. Moi, je retiens ce match fou face au Paris Saint-Germain, ouais. Où ils s'imposent 3-1 ou 3-2, je ne sais plus, et où ils n'ont pas peur d'aller les chercher. C'est une des rares équipes de Ligue 1, peut-être avec Lens, qui est allée chercher Paris très haut, qui est allée les agresser pendant tout le match. Alors... Match.
Il y a la victoire contre Lens aussi, je ne sais plus si vous vous rappelez.
Oui, 3-2. Ils
sont menés 2-0 à la mi-temps, ouais. Ils gagnent 3-2 en deuxième. C'était ouais. Fun aussi. Il y avait des moments pas mal dans la saison.
Mais donc, ouais, il y a, voilà, pour faire la comparaison avec Lille, il y a beaucoup plus de matchs de Nantes où tu fais, où tu sors et où tu peux dire ils ont fait un bon match, quoi. Et des matchs marquants. Et en plus cette campagne de Coupe de France. Donc, je pense qu'ils vont avoir du mal à capitaliser sur quoi que ce soit parce que c'est Kita et ça risque de bouger cet été. Il va y avoir pas mal de départs. Déjà, Colomoini, ça va être un chantier à remplacer.
Peut-être le coach. Hein.
Et peut-être le coach aussi. Mais j'ai envie de donner les encouragements après cette saison. Ils en auront besoin en plus pour l'année prochaine parce qu'avec la Coupe d'Europe en plus, il va falloir bosser. Voilà. Quoi.
Moi, c'est typiquement le genre d'équipe, Christophe, qui va perdre Colomoini. Ça va être très dur de le remplacer. Ludovic Blas... est peut-être amené à partir parce qu'il a atteint un certain cap et là je vois pas ce qu'il peut faire de plus à Nantes. Et l'an prochain il y a 4 descentes en Ligue 1. Donc pour moi c'est vraiment l'équipe idéale pour faire la bascule du mauvais côté du tableau.
Alors oui, l'équipe idéale c'est une façon de dire très positive pour un constat qui serait très négatif. Après ils ont, alors encore une fois on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ils ont, je sais pas s'ils ont un super gardien, en tout cas ils ont un gardien qui fait une très bonne saison. Je dis que c'est un super gardien, parce qu'encore une fois, l'historique d'Alban Lafont, même s'il commence à être conséquent, il y a eu des irrégularités dans son début de carrière. Donc du coup, je sais pas s'il va être capable de faire une saison du même niveau que de celle qu'il vient de faire. Mais il y a quand même un peu plus de certitude, à mon sens, que des équipes où tu sens que tous les résultats sont bien payés. Tu vois, typiquement, je me souviens d'Auxerre, à l'époque, Ange-Barre, etc., quand ça fait Ligue des Champions. Et derrière, ça se casse la figure, où tu te dis, bon, c'est quand même pas, où le Toulouse d'Almander, par exemple, qui reposait beaucoup sur lui. J'y pense parce que, du coup, là, ça parle de Nicolas Fauvergue qui prive Rennes de Ligue des Champions. Et du coup, c'est Toulouse qui s'était qualifié pour se prendre une branlée face à Liverpool en qualif. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs. Après, effectivement, la vérité doit être quelque part au milieu, entre la saison précédente où vraiment ça n'allait pas. Alors, les choix de coach n'ont pas forcément aidé non plus. Mais cette saison, où même, je trouve d'ailleurs, alors c'est un sentiment très personnel qui sera pas forcément partagé, je trouve que la 9e place est presque en décalage avec le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que 9e, c'est pas un classement incroyable, il y a autant de points que Lille, et pourtant j'ai l'impression que cette équipe a gagné beaucoup plus de matchs qu'un 9e, quoi. J'ai l'impression qu'elle a gagné beaucoup plus de matchs que Lyon, alors que finalement elle est 4 points derrière.
Ouais, après 15 victoires et seulement 9 nuls, c'est peut-être ce sentiment-là aussi, tu vois.
Lyon n'a gagné qu'un match de plus en fait que Nantes sur la saison, et d'ailleurs ils les ont battus la semaine dernière, donc la différence s'est faite sur ce match, finalement.
Oui, match où Nantes n'était pas... Ça a été un petit peu les vacances, quoi. Enfin, un peu plus que sur les dernières semaines, où malgré la coupe, ça se donnait à fond. Mais en tout cas, belle saison, donc, et beaucoup de très bons joueurs. C'est vrai que, mine de rien, il y a un côté surprenant quand tu sais où le club était la saison dernière. Maintenant, au top de leur forme, Colomwani, Simon, Blas, c'est quand même très, 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 très bien. La vraie révélation, c'est évidemment Quentin Merlin, à voir comment il sera utilisé. Suodo disait que pour lui, il fallait le replacer au cœur du jeu parce que c'est là où il pouvait être le meilleur. C'est vrai que tu peux avoir un petit côté, savoir est-ce que tu fais une traîne par Alexandre Arnold, c'est pas le même côté, mais inversé, quoi. C'est-à-dire un latéral qui va revenir milieu axial, je ne sais pas. Mais non, il y a quand même une base sur laquelle construire. Après, c'est vrai que la construction, c'est pas forcément le fort de Nantes. Et Colomwani, notamment, me semble quand même assez nettement au-dessus du niveau moyen des Nantais. Et là, c'est une vraie perte et faudra pas le remplacer par Renaud Aymon, par exemple. Pour prendre des recrues qui ont pu être faites il y a pas si longtemps que ça.
On avait oublié ce joueur. Oui. Et puis la question du coach aussi qui sera difficile, puisque t'as vécu de grandes choses avec Mbouré, mais il est pas du tout sûr de rester. Il l'a encore dit dans une interview là pour Prime Video récemment qu'il avait pas pris sa décision. Et tu sens que Kita est pas non plus, je pense, le genre de mec à tout faire pour garder un coach qu'il a critiqué publiquement. Donc même si là Mbouré est en position de force, forcément. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Le remplacement des attaquants à Nantes est quand même très très variable. C'est-à-dire que si Colomwani est remplacé par un joueur moyen, combien de points Nantes prend la saison prochaine ?
Beaucoup moins, et donne beaucoup moins de plaisir aussi. Parce que Colomwani, au-delà de la production statistique, il y avait quand même une élégance qui te donnait envie de regarder ta télé.
Oui, et puis sur les situations de transition que Kumbuara aime bien, Colomwani, il faisait des ravages, et tu as besoin de joueurs comme ça. Alors, t'as d'autres joueurs créatifs, hein, Moses Simon, t'as Ludovic Blas, hein, qui à mon avis partira, mais Chirivella et Chirivella aussi, qui sont des bons coups, mais qui va être capable de créer des différences pour marquer dans cette équipe-là. Moses Simon n'a jamais été un grand buteur. Ton troisième meilleur buteur, c'est Giroto cette saison. Donc t'as quand même cette question-là qui risque de se poser. Une appréciation, Christophe Kuchli, sur la très belle saison nantaise.
J'essaye de faire ça, sachant que mon chat me monte dessus, pour toi qui a la caméra. Oui, j'avais mis bravo pour les efforts, il était temps, ce qui est un commentaire un peu passif-agressif dont je suis très coutumier dans les échanges avec les gens.
C'est vrai que c'est un peu l'élève qui a rien fait en 6e, 5e, 4e et qui d'un coup a son brevet brillamment.
Attends, il y en a un autre comme ça. Il y en a un autre comme ça. Après, il y a Monaco un peu plus tard.
Parle-nous, finis sur Nantes.
Non, moi j'ai donné les encouragements tout à l'heure.
Voilà, oui, c'est vrai.
Tout ça, je reste là-dessus.
Bon, je pense pas qu'il y ait plus à dire. De toute façon, c'est une équipe qui va dépendre énormément de son mercato. Mais cette saison aura été un rêve pour les supporters nantais, avec en plus des grosses ambiances à la Beaujoire. Ça, faut le noter aussi. Le match contre le PSG, par exemple, c'était génial. Et le match contre Bordeaux aussi, récemment. Même si c'était triste pour Bordeaux, c'était le feu aussi. À la 8e place du championnat, c'est l'Olympique Lyonnais, avec 59 points au total en 37 journées pour l'instant. 16 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 64 buts marqués, 50 buts encaissés. Une saison, pas en enfer, Flo, mais une saison rythmée. par beaucoup de péripéties, un changement de directeur sportif, un coach qui a tangué tous les 2-3 mois avec des rumeurs sur un possible licenciement, un effectif qui a beaucoup changé aussi, des ambitions qui ont changé. Bon, c'était le bazar. Il y a plusieurs équipes qu'on connaît le bazar en Ligue 1 cette saison. Il y en a une qui est dernière du championnat et j'ai l'impression que Lyon, c'est à son échelle, a vécu un peu la saison de Bordeaux.
Oui, d'autant plus qu'ils ont eu, autant offensivement, ça a plutôt bien fonctionné. Quand on voit les stats avancées, c'est plus un problème de finition
Ah,
qu'autre chose, parce que au niveau des
c'est la
expected
deuxième
goals,
meilleure attaque
c'est
quand même.
ça,
Bon.
quand on prend la production offensive, donc les XG. Mais ouais, ils ont 6 buts de retard, du coup, sur les XG. Mais bon, ça c'est un point. Donc il y a ce volet-là qui a pas trop mal fonctionné, mais c'est vrai que défensivement, bon, voilà, c'était pas tenable. C'est-à-dire que cette équipe presse peu, a peu pressé, et le problème c'est que dès qu'elle ne pressait pas, elle était totalement perméable en fait, et elle n'a jamais vraiment réussi à régler ses soucis défensifs tout au long de la saison, que ce soit dans l'axe, sur les côtés, etc. Alors il y a l'éclosion de Loukeba qui a été sans doute permise aussi par des blessures et des sous-perfs de la part d'autres défenseurs. Faut quand même pas oublier que Denayer, qui était indiscutable en début de saison, a totalement disparu, par exemple, dans les dernières. Bon, il y a aussi l'histoire de sa prolongation de contrat qu'il ne va pas signer, et du coup, il a été un petit peu mis de côté. Je pense que c'était aussi pour ça. Mais non, très gros problème de cette équipe sur le plan défensif, c'est ce qui les plombe. Parce que bah, très souvent, c'était une équipe qui pouvait rentrer dominante dans ses matchs et finalement ne pas marquer faute de réalisme et encaisser le premier but et se retrouver à courir après le score. Et puis derrière, ça revenait pas. Donc, ouais, non, saison très, très compliquée. Sans doute un besoin à venir d'aérer l'effectif avec des joueurs qui sont pas partis, qui auraient dû partir depuis plusieurs saisons, qui sont jamais partis et qui ont perdu pas mal de leur niveau et leur cote à baisser aussi. Donc ouais, gros 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 chantier. Après voilà, on va voir ce que va donner le nouvel attelage avec Ponceau et du coup Chéroux aux manettes du recrutement.
Tu parlais de leur défense, c'est la pire défense en stats avancées du top 10
Ouais,
de
juste
ce
devant
bordel
Nantes,
qu'on
ouais.
trouve dans cette
Juste devant
vidéo,
Nantes, en effet.
avec des matchs assez grotesques sur le plan défensif. Christophe, je ne sais pas si tu as beaucoup vu Lyon cette saison. C'est une
Trop.
équipe trop. C'est une équipe qui en plus pendant longtemps a été assez proche hein, des places du podium. Ils ont eu plusieurs fois l'opportunité sur des matchs de revenir à un point, de revenir à 2 points, parfois des galets, les équipes placées sur le podium. Et c'est toujours à ce moment-là qu'ils sont passés à côté. Donc quand ça arrive une fois, c'est pas du hasard, mais bon, c'est que t'es pas capable d'aller chercher plus haut. Et il y a aussi ce côté frustrant dans cette saison où il y a eu des très bons matchs. Et puis il y a eu des matchs assez catastrophiques et on n'a jamais vu. Les idées que Bosch avait réussi à implanter à l'Ajax et à Leverkusen, avec Dortmund un peu moins, ça a duré quelques semaines et après c'est parti en sucette. Là, on n'a jamais vu cette intensité-là et se pose la question des responsabilités de chacun.
Bon, je pensais que Florent allait
Ah
parler
oui,
justement de ta question trop longue,
juste...
m'a fait déconnecter.
j'allais juste dire que le meilleur exemple récemment, c'est la défaite à Metz, où s'ils gagnent aujourd'hui, ils ont 3 points de plus et ils sont vraiment dans la course pour la 5-6e place pour l'Europe. Et
Et t'as
finalement,
la
bah, ils
défaite à
passent.
Brest, hein. Les défaites à Metz et à Brest sont un peu les mêmes, ils ont plus d'occasions, ils croquent et puis ils finissent par se faire
C'est
surprendre.
ça.
Mais oui, non, sur les principes, j'avoue que je suis le premier déçu, toi, de faire un petit peu de pub, mais je sais plus, je crois que c'était Sport Foot Mag qui nous avait
Ouais.
interviewé, le journal belge, en début de
C'est
saison,
ça.
sur nos tops et nos flops prévisionnels, et t'avais annoncé Lyon comme étant un flop, donc du coup, là-dessus, t'as eu une bonne lecture de la situation. J'étais un petit peu plus optimiste, même si c'était un optimisme avec la prudence, mais pas enfin, la prudence un peu du fan, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a peur que ça tourne mal, c'est-à-dire je me suis dit, j'aime bien Poche, j'aimerais bien que ça tourne bien, mais j'ai peur d'être déçu, comme on est souvent déçu dans la vie, effectivement, ça s'est pas très bien passé. Au-delà des résultats, parce que les résultats c'est une chose, mais on verra avec Rennes, par exemple, il faut quand même savoir aussi les décorrélés de la production et de ce qui est offert aux spectateurs, et aussi de ce que ça dit de l'avenir d'un club. Si la production est bonne, tu peux estimer que la chance finira par tourner et que la saison suivante s'annoncera assez bien. Là, honnêtement, j'ai pas compris le recrutement et j'ai pas bien compris. Alors, je suis pas dans le secret des dieux sur ce
Alors, quel
club-là.
recrutement? Celui de l'été, celui de
Bah,
l'hiver?
justement, clairement, quand je dis je suis pas dans le secret des dieux, c'est-à-dire, c'est difficile de savoir vraiment le vrai du faux sur l'influence de Bosch. Sur la venue de Boateng, apparemment, c'est plutôt lui. Honnêtement, Boateng, là, il y a vraiment un crash énorme. Il y en a eu d'autres, Godin, par exemple, qui était passé de l'Atlético Quasiment plus joué avec Cagliari, il me semble, en quelques mois. Boateng était quand même titulaire en faisant sa saison la plus aboutie sur le plan du nombre de matchs joués avec le Bayern depuis très longtemps. Et on pouvait supposer qu'il était un peu cramé, sinon le Bayern l'aurait prolongé, mais de là à être incapable de jouer plus de 45 minutes avec Lyon, la chute est quand même très très violente. Faut pas non plus que les gens pensent que Boateng était un mec déjà cramé avant d'arriver. Ça arrivait, mais bon, il jouait quand même dans une équipe bien meilleure que Lyon. Par contre, Shaqiri, j'avoue que ça, je comprends pas. C'est visiblement pas l'initiative de Bosch, mais le fait qu'il ait pu valider son profil pour ensuite ne pas le faire jouer côté, ce qui est logique. J'avoue que je comprends pas. Enfin bref, rien que ça, c'était quand même un petit peu étrange parce que il y avait pas vraiment de logique entre eux, mais on en a déjà parlé plein de fois dans cette émission, entre la façon dont Bosch a toujours joué avec des ailiers et le matériel qu'on lui mettait à disposition. Maintenant, faut pas non plus l'exonérer de tout, c'est-à-dire, ok, il a pas eu forcément tous les profils qui collaient à son projet de jeu. N'empêche qu'il y a des équipes qui sont bien moins équipées et qui ont été capables de mieux jouer au foot et d'être beaucoup plus régulière, notamment Strasbourg, qui avait pas vraiment de piston et qui a reconverti Lienard notamment pour jouer côté. Et Peter Bosch, mais je l'ai écrit sur Coparena dès janvier, il me semble, dès décembre-janvier, où pour moi, j'avais déjà abandonné. Pour moi, lui-même avait abandonné son identité. Et à partir du moment où Bosch abandonne son projet de jeu, il reste plus grand-chose. Que pour moi, c'est pas quelqu'un qui va jouer sur un levier motivationnel, etc. Pour bon, bah, on va s'adapter de semaine en semaine, mais ça a fonctionné. Non, ça a jamais été sa façon de faire. Et il y a eu 2-3 petits rappels, genre le match face à Nice, où Nice fait un tiers du match, où Lyon étouffe totalement cette équipe niçoise, alors qu'il est pas la meilleure sous pression, etc. Mais tu dis ah, alors peut-être. Et en fait, non, pas du tout. Deux semaines après, ça recommence à ne plus presser, etc. Donc à la limite que tu meurs avec tes idées, pourquoi pas. Là tu meurs mais sans trop d'idées, donc j'avoue que je comprends pas et je suis vraiment très déçu. Heureusement, bah il y a un Loukeba par exemple qui est en train de s'affirmer, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, qu'a retrouvé une dimension qu'il avait un petit peu perdue sur la fin du règne Rudy Garcia. Mais en plus, tu peux même pas te dire bon, tous les titulaires ont pas été bons, on a fait exploser plein de jeunes, parce que Aouar, alors qu'il n'est plus si jeune que ça, mais c'est de nouveau une saison de stagnation. Cherki, la même chose, et je sais pas, des joueurs comme Barcola, etc., c'est encore trop jeune pour toquer à la porte. Donc en gros, il reste Loukeba Gusto, mais c'est un petit peu léger pour une saison d'un club de la dimension de Lyon, quoi.
Il y avait une autre satisfaction, et c'est une question que j'ai envie de poser à Flo. Comment la deuxième partie de saison de Lyon, qui est quand même positive en termes de points par rapport à la première, parce que la première partie était vraiment catastrophique, là ils sont à 2 points par match sur la deuxième partie de saison. Comment la deuxième partie de saison de Lyon se serait déroulée si Bruno Guimaraes n'avait pas été vendu à Newcastle? Parce que c'était lui l'autre satisfaction de la saison, il avait démarré très très fort. Il y avait Paqueta aussi, mais qui à un moment est parti, s'est éteint en fait, surtout avec le départ de Juninho. Est-ce que Guimaraes n'aurait pas pu un peu tenir cette équipe, surtout quand on voit l'apport assez maigre d'Ndombele?
Le truc c'est que, tu le dis toi-même, ils ont une meilleure deuxième partie de saison que la première, finalement. Ouais.
Mais comme beaucoup d'équipes, et c'est le souci en fait, c'est qu'ils n'ont pas pu rattraper leur retard, parce que les autres équipes ont aussi commencé à gagner plus de
points. Ouais, mais je sais pas si Guimaraes aurait tout changé, parce que en le gardant, parce que finalement tu restais dans la même, il serait resté dans le même environnement, dans le même contexte. Donc est-ce que dans le contexte en question, est-ce qu'il aurait pu en tirer l'équipe vers le haut? Je sais pas. Après, c'est sûr que son départ a quand même dû peser, parce que c'était vraiment, enfin moi, pour moi, j'étais 100% sold sur ce joueur là et c'est un joueur que j'adore, et je suis d'ailleurs assez content de voir ce qu'il est en train de faire à Newcastle.
Oui, il est assez exceptionnel à Newcastle, parce qu'en plus il a rajouté des buts.
Ouais, il en a mis 5 déjà, je crois, depuis qu'il est arrivé, quelque chose comme ça. Mais et c'est sûr que quand tu vois Ndombele arriver, je pense que il y a eu le match de son arrivée, il y a peut-être eu un autre bon match derrière, et puis ensuite plus grand chose.
Le retour d'Ndombele tel qu'on le connaît malheureusement trop souvent.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on verra ce que Lyon fera l'année prochaine s'ils font le penant, qui semble être assez chaud et une vraie possibilité. On va voir qu'à créer le penant dans le même milieu de terrain, je n'y aurais pas cru, je l'aurais pas rêvé. Et là, on va le voir l'année prochaine. Je suis quand même très curieux de le voir ça. Mais après, bon, ils ont tellement d'autres situations et d'autres postes à régler, le poste latéral gauche, où, bon, Emerson, c'est gentil, mais au revoir, beaucoup trop neutre. Bon, à droite, t'as Gusto, mais Gusto, individuellement, il faut qu'il règle certains sauts de concentration, notamment sur le plan défensif, qui ont coûté des points à l'OL tout au long de la saison. Il en a rapporté quelques-uns,
mais ça va le faire. Il lui faut un bon central droit aussi pour le couvrir.
Un central droit, en effet, pour le couvrir. Qu'est-ce qu'on peut faire en remontant le terrain? Bah, ces fameux joueurs de profondeur, on en a parlé, je pense, tout au long de la saison, à chaque fois qu'on évoquait Lyon.
Ça dépend qui part aussi, Flo. Si Dembélé et Aouar partent contre un chèque à peu près correct, tu peux réfléchir à certaines choses.
Oui.
T'as Favre qui est là, t'as Paqueta qui devrait partir aussi. Paqueta dans cette équipe où il n'y a plus Juninho comme directeur sportif, et je pense qu'il a fait son temps.
De toute façon, quand ils font venir Favre cet hiver, je pense qu'ils pensent déjà à la suite et à l'après Paqueta. Parce que c'est vrai que recruter Favre cet hiver pour finalement jouer dans le même rôle que tenait Shaqiri côté droit, globalement, il a noué une certaine relation avec Gusto parfois lorsqu'il montait, mais concrètement, il apportait pas ce dont l'OL avait besoin dans cette zone-là où il fallait plus de profondeur. À voir s'il garde Tété aussi, qui peut être une autre solution. Ouais.
Oui, sans Coupe d'Europe, peut-être que ça va pas forcément séduire le Brésilien du Shakhtar. Une appréciation, Christophe Kuchli, pour cette saison de l'OL. On aurait pu parler de plein d'autres choses, mais on vous recommande un très bon article de l'équipe. Je dis pas ça par solidarité professionnelle, mais sur la saison folle de Lyon, avec notamment, on l'a pas dit, mais le prout de Marcelo. C'est vrai qu'il y a eu cet épisode dernièrement. Christophe.
J'ai mis élève trop dissipé qui gâche son potentiel et embête ses camarades.
Exactement. Et je pense que Flo sera assez d'accord sur l'appréciation.
Oui, bah, avertissement, travail et conduite, du coup.
Ouais. Alors, c'est vrai que là, oui. On sent le potentiel, mais cet élève est en train de se gâcher et aura d'admission post-bac assez difficile, je pense, à ce rythme-là. On remonte le classement et on arrive à la 7e place, et on va retourner à peu près chez Christophe, même si c'est pas collé. C'est le RC Lens qui est pour l'instant 7e, donc avec 17 victoires, 10 nuls, 10 défaites, 60 buts marqués, 46 encaissés, 61 points. Une saison qui aurait pu se terminer plus haut. Là, la Ligue des Champions est impossible, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, ce sera compliqué. Mais ça reste une saison positive, Christophe, parce qu'il y a une stabilité, et Lens n'a jamais été inquiété cette saison et s'installe comme une équipe de haut de tableau.
Oui, et tu vois, en plus de faire 100% Lille, je fais 100% Lens, et je prends récemment beaucoup plus de plaisir à parler de Lens, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Lens qui, quand même, fait relativiser tous ceux... Alors, il n'y a pas non plus des milliers de clubs qui sont concernés par ça, mais j'entends notamment des supporters lillois dire... Oui, en gros, on était dans les clous jusqu'au sprint final, on a juste raté notre sprint final. Lens montre, de par ses résultats, qu'en fait, bien négocier le sprint... c'est pas forcément suffisant si tu partais avec 4-5 points de retard et 2-3 équipes intercalées, parce que Lens fait de très très loin sa meilleure série de la saison. Là, sur le final, il y a 3 victoires, et même plus, il y a 5 victoires sur les 7 derniers matchs, je crois, et 2 nuls, quelque chose comme ça.
Paradoxalement, sur des matchs où il se crée pas tellement d'occasions.
C'est ça.
Je suis en train de regarder les expected goals, c'est des victoires où il y a parfois des 2-3 buts, comme contre Nice, 3 à Montpellier, mais il se crée pas grand-chose.
Mais il y avait quasiment pas eu de vraie série de victoires jusque-là. Et là, le problème, c'est que comme tout le monde a accéléré, bah, au final, ça ne suffira sans doute pas. On verra ce qui se passera face à Monaco. Mais pour accrocher l'Europe, surtout avec Nice qui ne gagne pas la Coupe de France. Mais équipe qui, a gardé tous ses principes de l'année dernière. Ce qui est pas toujours positif quand les principes sont pas bons, mais là, c'est quand même plutôt, plutôt intéressant.
Et la plupart de ses joueurs, ce qui aide aussi.
La plupart de ces joueurs, avec un petit peu de turnover sur certains postes. Alors déjà, il y a Farinès qui maintenant est en alternance avec Jean-Louis Leca, Jean-Louis Lec, qui ne jouera pas le dernier match puisqu'il s'est énervé et qu'il a tapé une porte, mais que la porte a gagné et que sa main a perdu. Donc du coup, les doigts n'existent plus. Mais sinon, il y a à la fois des confirmations. Typiquement, Jonathan Clauss, qui est devenu international, qui a eu des vrais moments un petit peu plus difficiles pendant la saison. C'est d'ailleurs le moment juste avant qu'il soit appelé en équipe de France, où il est un peu moins bien, ce qui est rigolo, alors qu'il n'est pas appelé sur les rassemblements précédents, où il est en meilleure forme. Mais il y a David Pereira da Costa, qui a vraiment pris la place de Kakuta, qui était l'un des moteurs. C'est presque ça le truc, pour moi, le plus intéressant, le plus important de la saison. Alors, il y en a d'autres, hein. On peut parler de Frankowski, qui fait latéral en faux pied côté gauche, alors qu'il venait pour être piston droit. Et rien que ça, c'est un truc qui était totalement inattendu. Mais pour moi, vraiment, quand on voit l'importance de Kakuta, l'importance du numéro 10 dans ce système-là, hein, en 3-4-1-2 avec un meneur derrière deux attaquants, Le fait que Kakuta soit plus du tout au même niveau et que Pereira da Costa ait pu prendre la suite. Après, il y a eu d'autres animations, il y a les articulations avec deux milieux derrière Fofana qui prenait cette place de numéro 10. Mais c'est cette capacité justement à moins dépendre. Alors, tu dépends toujours du binôme un cran derrière Fofana-Doucouré, hein, Doucouré pour équilibrer les choses, faire la première passe vers l'avant et Fofana pour se projeter, faire box-to-box. Mais là-dessus, c'est vraiment ça rend hyper intéressant. Il y a toujours des choses qui peuvent progresser sur la finition. Il y a des joueurs qui sont peut-être pas au très très haut niveau, en tout cas au niveau pour accrocher des places en Ligue Europa. Ganago, je suis pas hyper client. Sotoka, c'est un joueur hyper complet, mais qui est pas assez finisseur, donc il vaut mieux l'associer à un très bon joueur de surface. Kalimuendo est encore en apprentissage, donc ça progresse de semaine en semaine. Mais évidemment, il a 20 ans, et s'il avait 22, 23 ans, il serait pas du tout dans ses sphères lensoises, il serait beaucoup plus haut. Saïd était pas mal blessé.
Efficace devant le but, néanmoins. Christophe Kalimuendo, cette saison, je regardais, il est à 4 buts au-dessus de CXG.
Oui, non, mais c'est bien. Mais là, en plus, il est en train de faire plutôt ses stats sur la deuxième partie de saison. Il a eu un vrai trou, et c'est ça aussi qui correspond. Alors pas que, hein, mais il a marqué un but entre fin décembre et mi-avril. Et ça aussi, ça correspond à la période un petit peu plus difficile de Lens.
Et quand on prend les XG de Lens sur la deuxième partie de saison, c'est très surprenant parce qu'ils ont la 18e attaque sur la deuxième moitié de saison, depuis
Et
le
dans la
1er
réalité?
janvier. Et dans la réalité, ils ont je vais te le dire tout de suite, la 7e attaque.
Avec pas
Ouais.
mal de buts marqués en infériorité numérique.
Pas
Parce
mal
qu'ils
de
ont pris pas mal de rouges
Buts
récemment.
en infériorité numérique, ouais. Mais oui, donc ils ont la 18e attaque et là, donc là on parle en XG, et la 4e défense derrière Strasbourg, Marseille et Paris sur la deuxième moitié de saison. Donc c'est un petit peu surprenant, mais c'est vraiment ils ont une vraie réussite parce que quand tu prends les expected points, ils ont 10 points de plus, 9 points de plus, pardon, qu'attendu sur la deuxième moitié de saison, et particulièrement sur, comme Christophe le dit, sur les dernières journées où ils ont en effet
Ah oui,
une
mais
belle série
c'est.
d'invincibilité.
Ben, ils sont sur 7 matchs sans défaite. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé la saison dernière, par exemple. Alors là, ils vont jouer Monaco, donc peut-être que ça va s'arrêter. Mais en tout cas, cette saison, ça n'était pas arrivé. Sauf en début de saison, ça avait commencé par 6 matchs sans défaite. 3 victoires, 3 nuls. Mais depuis, ils n'avaient jamais enchaîné 3 journées sans perdre un match ou sans faire un nul. Donc ça montre à quel point la fin de saison se passe bien pour Nantes pour Lens, pardon, contre des adversaires en plus de qualité, parce qu'il y avait Nantes justement, il y avait le PSG, il y avait Lille. Alors à Lille, c'est pas un adversaire incroyable, mais il y avait Lille quand même, il y avait Nice. Une belle série, Christophe, pour finir. Je te laisse continuer sur la partie individuelle, peut-être que tu voulais prolonger.
Non, mais juste pour conclure, parce que j'ai déjà fait assez long, mais confirmer l'idée que pour l'instant, sur le recrutement, il n'y a pas vraiment d'erreur. C'est-à-dire, on peut se questionner sur Machado, mais qui a été blessé pendant la moitié de la saison, mais Danso a largement fait le job, ou dans un rôle de quatrième central qui prend la place d'un des trois titulaires si jamais il y a une blessure, fait aussi le job. Berg, je suis pas sûr que le potentiel maximal soit hyper haut, mais le niveau actuel fait largement le job pour ce qu'on lui demande.
Bah,
Disons, la question se posera
il fera au
si
moins aussi bien
Fofana,
que
Doucouré
Cahuzac.
partent.
Il fera au moins aussi bien que Cahu.
Oui, bon, Cahu qui prend sa retraite et qui là, à 37 ans, n'a plus de jambes. Hein, donc,
Non,
Cahu était plutôt un leader de
le
vestiaire.
Cahu qui jouait, ouais.
Mais non, mais voilà, pour Frankowski, je l'ai dit tout à l'heure, vraie, vraie bonne pioche. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur de recrutement, donc mine de rien, dans des clubs de cette dimension-là, une ou deux erreurs, sous dans le choix du coach aussi, ça peut extrêmement rapidement t'emmener 14-15e. Là, pour l'instant, il n'y a que des bonnes pioches, et c'est ça aussi qui permet d'être, je crois que c'est la 17e ou 18e masse salariale, enfin c'est extrêmement bas, d'être sur des sphères extrêmement intéressantes pour ce club.
Il y a peut-être Corentin Jean, arrivé en 2020 et qui a du mal à apporter depuis. Mais c'est un petit échec, pas un échec très important. À la sixième place,
Alors, t'as pas interrogé Florent et t'as pas demandé
les
nomination.
appréciations, je vais y arriver, les appréciations. Vous dites tellement de choses que j'oublie les appréciations. Comment je commence par Flo, l'appréciation pour le RC Lens?
Bah, moi c'est le chouchou de la classe, donc je suis pas très pertinent. Non, j'ai encouragement aussi, mais je crois plus en Lens qu'en Nantes pour justement réussir
Ne pas tomber.
à enchaîner l'année prochaine. Mais j'attends aussi de voir ce qui va se passer avec le duo Fofana-Doucouré, parce que tout au long de la saison, on a parlé énormément de Fofana, et a raison. Mais je trouve que sur la deuxième moitié de saison, Doucouré sort des matchs de plus en plus complets et il est de plus en plus décisif. Je l'ai vu, je me rappelle, il y a un match où il claque un doublé, je crois, à Bollaert avec une frappe de loin ou des choses comme ça. et quelques passes décisives très intéressantes. Donc moi j'attends de voir la suite pour les deux. J'aimerais que Lens réussisse à en garder au moins un des deux, mais je ne suis pas sûr que ce soit très simple pour eux cet été.
Ton appréciation, Christophe Hufli, et je te promets de ne plus oublier le principe de cette émission. Vas-y.
Oui, car pour dévoiler les coulisses, je t'envoie en parallèle des messages d'insultes sur les réseaux sociaux.
Non, j'irai pas jusque-là, mais tu fais passer des messages, comme on dit.
J'ai mis poursuivez dans cette voie, c'est un plaisir de vous avoir en cours. Et j'invite,
Et c'est
puisque.
marrant parce que tu es professeur, quand même, Christophe.
Oui, c'est vrai que c'est pas le genre d'appréciation que je mets, mais effectivement, je suis amené à mettre des appréciations juste pour faire de la retape, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'émission qu'on a faite sur le RC Lens sur la chaîne YouTube de la Ligue est toujours disponible. Si vous tapez Cop Arena RC Lens, vous allez assez facilement retrouver ça. Si vous voulez voir nos magnifiques têtes en train de faire des palettes, c'est toujours possible de visionner ceci.
Sixième place donc, un autre Racing, celui de Strasbourg. 17 victoires, 12 matchs nuls, 8 défaites, 60 buts marqués, 39 encaissés, 63 points. Après 37 journées, est-ce que c'est pas l'équipe qui va, et je ne vous la demande pas tout de suite, mais comme ça j'oublierai pas, est-ce que c'est pas l'équipe Flo qui va recevoir la meilleure appréciation cette saison?
Si, moi j'allais partir, je vais le dire de suite, j'allais partir sur les félicitations
Oui.
pour la saison de Strasbourg. Juste, vu que j'ai l'ex-G sous les yeux de la deuxième moitié de saison, en tout cas à partir du 1er janvier, Strasbourg a joué 19 matchs, d'autres en ont joué 18 pour l'instant. Strasbourg est troisième du classement aux expected points. Strasbourg a la meilleure défense aux expected goals concédés. Et ils ont, je crois, la meilleure défense tout court aussi sur la deuxième moitié de saison. Alors, ils sont pas partis dans. Comme c'est Monaco l'année dernière qui fait une deuxième moitié de saison ahurissante avec 50 points. Mais bon, Strasbourg partait de beaucoup plus bas. Et ils terminent voilà, cette deuxième partie de saison avec 37 points. Et ça leur met ben, pour l'instant le même bilan que le PSG. Mais avec un match en plus, quand même.
Je me permets juste d'intervenir. Pourquoi est-ce qu'on fait Strasbourg qui est cinquième et pas Nice qui est sixième? Il y a une raison particulière
Parce que sur Understat, Strasbourg est sixième, et je pense qu'ils prennent pas en compte
Oui, ils
oui, c'est
prennent. parce qu'ils
Je
n'ont pas, ils
pense.
n'ont pas pris en compte la pénalité. Bon, c'est pas
Ouais,
dramatique, hein, ça
oh,
joue
c'est
la
ça.
différence de but.
Ah oui, bah tu
Mais les
sais.
Strasbourgeois sont en train de nous insulter.
Ouais, bah oui, c'est pas grave. Hein. Comme ça, de toute façon, on le dit du bien d'eux, donc quelle que soit leur place finale, ils seront contents.
Je suis un peu l'empêcheur de
Ils vont
tourner en rond
savoir.
hein, sur cet
Ouais, je
épisode. Hein.
vois
Je suis un
ça,
peu
non, mais
redresseur de
c'est.
tort,
Mais
mais
c'est.
j'aime la précision.
Je sais pas pourquoi Understat ne prend pas en compte les pénalités.
Parce que leur modèle doit
C'est
être. Je pense qu'ils peuvent
automatique,
pas faire de correction à la
automatisé,
main. Je
ouais,
pense que c'est
voilà.
automatisé.
Ouais, mais chez moi, ni chez moi, enfin chez moi, chez Understat, Nice a 64 points, en effet. Donc,
Oui, bah c'est ça.
c'est ça
Ouais.
qui.
Lyon aussi
Mais
a
c'est
un
la
point de
même
plus, je
chose
crois.
pour. Ouais, enfin bon, bref.
Donc,
Reprends, Florent, désolé.
Strasbourg.
Non, mais ça, c'était donc pour l'aspect comptable et maintenant pour l'aspect terrain. Alors, il y a eu. Je crois en début de saison, la prépa, c'était une défense à 4.
Oui.
Stéphane est vite revenu à ce que faisait
Ah,
Loré,
déjà.
finalement, à la base qu'avait laissé Loré, mais avec une maîtrise de beaucoup plus de phases de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Strasbourg est une équipe qui peut presser haut, qui peut attendre plus bas, qui peut faire du bloc médian selon l'adversité. Et c'est une équipe qui,
Qui peut
offensivement,
ressortir aussi,
voilà,
parce
c'est ce que
qu'on
j'allais
sait.
dire, qui avec le ballon peut ressortir court, peut avoir aussi un jeu plus direct grâce aux appels d'Ajorc, de Thomasson, de Gamero, bien
Gamero.
entendu, qui fait d'ailleurs une grosse deuxième partie de saison, Gamero, après avoir été un petit peu en retrait par rapport aux autres attaquants sur la première partie. Donc ouais, vraiment une équipe qui maîtrise tout, qui sait tout faire, et qui franchement, je suis curieux de voir ce qui peut se passer pour elle l'année prochaine. Alors évidemment, elle va perdre certains joueurs sans aucun doute, mais avec les bases qui sont posées là, je pense que Strasbourg aura ce qu'il faut, si Stéphane reste, ce qui n'est pas sûr non plus, pour se maintenir dans cette première moitié de tableau et peut-être vraiment concourir au top 5 l'année dernière. Là, s'il l'accroche, ce sera un petit peu la surprise.
L'année prochaine, parce que
Oui,
l'année
l'année
dernière, ce
prochaine.
sera
Oui,
compliqué.
pardon. Mais c'est la chaleur, ça commence à être compliqué. Mais voilà, non, les félicitations. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et puis il y aura peut-être une relance après.
Et ce qui est intéressant, Christophe, c'est qu'on a souvent vu le règne de Stéphane. On avait même parlé à Damien Da Silva. On avait un peu de mal à identifier les principes clés chez lui. On avait l'impression que c'était un coach qui s'adaptait beaucoup, qui préparait match par match et pour qui le style global, en tout cas sur la longueur d'une saison, n'était pas forcément capital. Et finalement, à Strasbourg, il y a un vrai style. Alors c'est peut-être parce qu'avant celui de Loré était très différent que là on le reconnaît encore plus, mais on sait comment Stéphane veut jouer, on sait qu'il s'appuie beaucoup sur les stats avancées, et que là Strasbourg essaie de pratiquer quand même un jeu plus ambitieux sur le papier que ses joueurs ne devraient lui permettre. C'est ça qui est intéressant aussi.
Oui, c'est là-dessus que c'est toujours, c'est un de mes grands combats, la catégorisation parfois un petit peu hâtive des entraîneurs. Sur le côté, oui, ce sont des entraîneurs de projets de jeu au long cours, alors parfois on le fait, mais aussi, enfin, Bosch a toujours fait la même chose, donc du coup c'est plus facile. Mais les entraîneurs, il y a des entraîneurs qui évoluent vraiment d'un club à l'autre, d'une saison à l'autre. Et c'est vrai que Stéphane a raison, hein, mais on le voyait effectivement comme un entraîneur qui était capable de, sur un match, vraiment d'identifier les faiblesses des adversaires, d'appuyer dessus. On était un peu plus, c'est pas péjoratif, même si je n'aime pas du tout cet entraîneur, mais du Allegri que du Guardiola, quoi. C'était vraiment, on sait exactement quelles sont les faiblesses. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, le latéral gauche en face est vraiment pas bon, bah hop, on va attaquer tout le temps à droite, et puis la semaine suivante, on va faire différemment. Et c'est aussi ça qui a permis de renverser le PSG sur une finale de Coupe de France, d'inaugurer le palmarès rennais depuis un sacré moment. Et là, alors à Strasbourg, il peut aussi y avoir quelques animations, mais malgré tout, il y a quand même pour moi la volonté de faire un peu toujours la même chose pour mettre les meilleures individualités dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que pour moi, les joueurs les plus talentueux de cette équipe, c'est le trio Thomasson, deux attaquants. Quand je dis deux attaquants, je les mentionne pas parce qu'ils sont trois pour deux places. Hein. Il y a Gamero, Diallo, Ajorque. Ça tourne en fonction parfois du profil de l'adversaire, parfois de la forme des individualités. J'ai tendance à penser que les deux meilleurs, vraiment à l'instant T, je dis à l'instant T parce que Gamero vieillit, ça serait Gamero, Ajorque avec un qui prend la profondeur et l'autre qui va plutôt être dans la déviation. Mais Diallo est aussi un très bon joueur et Thomasson qui est derrière, qui est à la fois un abattage assez monstrueux. Une capacité à arriver lancé en deuxième rideau pour mettre des têtes, notamment celle qu'il avait mise le week-end dernier pour gagner face à Clermont, et aussi la qualité de passe, hein, qui est pas négligeable. Et bon, derrière, il y a aussi, Florent a fait un coup de cœur tactique là-dessus, les milieux relayeurs qui vont se projeter. Enfin, il y a une vraie, je trouve, qualité offensive qui est meilleure que la qualité défensive, même si les centraux sont pas forcément mauvais. Et du coup, le fait de faire toujours la même chose donne plus de munitions aux éléments offensifs qui, du coup, peuvent un petit peu répéter les choses. Et c'est vrai que là-dessus, en gros, essayer de relancer propre avec des circuits très travaillés réduit, je pense, la marge de manœuvre d'improvisation des défenseurs, qui du coup n'ont pas forcément à inventer des choses, et tant mieux parce que tous ne sont peut-être pas forcément ultra doués ou ultra habitués, parce que Liénard, c'est pas son poste d'être latéral gauche. Et puis, bah, ça donne l'occasion d'avoir des situations assez répétitives, qui ensuite, notamment sur les centres, hein, le fait de régulièrement libérer les joueurs de couloir en fixant à l'intérieur pour décaler, genre Guilbert qui va centrer pour la tête d'Ajorque, c'est des choses qui marche vraiment bien. Donc hyper client du Strasbourg de Stéphane. Et du coup, dans l'incertitude sur quel coach est vraiment Julien Stéphane, alors j'imagine que si on lui demandait, il dirait bah je fais avec mon effectif et je suis capable de m'adapter. Peut-être que s'il est dans un troisième club, il ferait un mix de ses deux premières expériences. Mais en tout cas, ça se rapproche pour moi assez clairement de ce qui est fait à Lens sur le point de vue du système, sur le point de vue de l'animation qui bouge pas tellement, de la volonté à la fois de presser et de ressortir court. Et en plus, je trouve que les scénarios ont pas toujours avantagé cette équipe strasbourgeoise qui a pris énormément de buts dans les dernières minutes. Et honnêtement, pour le même prix, Strasbourg peut très bien être à la lutte pour la deuxième place. Donc, c'est même pas uniquement une saison totalement aberrante sur le point de vue des résultats où tout tourne bien. Je trouve même que Strasbourg est assez mal payé sur ce qui a été fait les dernières semaines.
Strasbourg est-il prêt pour la Coupe d'Europe, Flo?
Bah, il va falloir de toute façon. Après, l'avantage, c'est que je pense qu'avec ce groupe-là, si tu arrives à aller chercher l'Europe, ce qui va pas être simple, hein, d'ailleurs, avec la dernière journée de déplacement à Marseille, mais si tu arrives à aller la chercher, je pense que tu peux avoir des arguments pour garder quasiment tout le monde. Donc, ça peut en effet être très intéressant. Et ne pas non plus oublier que Christophe faisait le parallèle avec Lens, c'est aussi une équipe qui se trompe assez peu côté mercato. Et là, ils sont déjà allés chercher, je crois, Thomas Delaine à Metz et pour le poste de latéral droit, parce que je crois qu'ils vont pas réussir à garder Guilbert. En tout cas, ça va pas être simple. Et il y a Cassie qui s'en va déjà. Donc, ça aussi, je pense que c'est une très bonne pioche. Et du coup, ben, assez curieux de voir vers qui ils vont se tourner cet été pour le mercato.
Votre appréciation,
J'ai
messieurs,
déjà
j'ai pas dit
donné.
Christophe, j'ai pas oublié. Oh, mais Christophe ne l'a pas donné encore.
Et moi, j'ai mis élève transformé cette année qui a également pris en assurance. Parce que c'est vrai qu'il était un petit peu timide, un petit peu dans son coin. Et là, maintenant, c'est l'un des élèves les plus charismatiques de la classe. Donc, ça fait plaisir de voir, oui, la tête levée, le verbe haut et le buste bombé.
Question, dernière question pour l'homme de la VDN. Est-ce que vraiment Ludovic Ajorque va aller du côté du LOSC?
Lille aimerait vraiment le faire, je suis pas sûr que financièrement. En gros, il faudrait mettre 95% de ton enveloppe budgétaire estivale sur lui. Je pense pas que ça se fera, mais Lille aimerait beaucoup.
Donc, à la 5e, 6e place, mais vraiment en 6e, ma faute. Nice, Nice de Christophe Galtier. 19 victoires, 7 matchs nuls, 11 défaites, 49 buts marqués, 34 encaissés, 63 points, puisqu'il y a eu un point de pénalité. Et donc, ses possibilités encore de jouer la Coupe d'Europe, mais pas la Ligue des Champions. Et ça, c'est le regret pour le GC Nice. Flo, que penser de cette saison? On attendait beaucoup de Nice, hein, c'était peut-être une des deux, trois équipes qui nous intéressait le plus au départ de la saison, entre l'arrivée de Galtier, entre le nouvel investisseur donc Ineos qui avait des sous, un recrutement intéressant sur le papier, et puis la saison n'a jamais, sur le plan du jeu en tout cas, décollé je trouve.
Non, ça n'a jamais décollé. Alors il y a eu des tentatives en cours de saison, moi il y a une période où j'ai trouvé Nice, ou en tout cas... La tentative de Galtier d'avoir ce 4-4-2 qui bouge pas sur le plan défensif avec le fait de repartir à 3 qui permettait d'utiliser Kluivert dans une position très excentrée d'ailier à gauche et de rentrer Guiri à l'intérieur. Enfin bref, il y avait une logique qui était plutôt intéressante sur ce plan-là, mais ça a duré quelques matchs et puis finalement on est revenu au schéma habituel. Moi je pense que l'échec de Galtier sur cette saison, il est clair, c'est de ne pas avoir réussi à vraiment intégrer Kluivert ou Stengs. A priori, d'ailleurs, les deux pourraient repartir dès cet été. Et c'est vrai que là, sur les dernières journées, il y a eu... Enfin, les dernières semaines, même plutôt, un entraîneur qui a semblé vouloir ouvrir quelques parachutes pour expliquer sa saison moyenne, ou en tout cas le fait que ça se termine pas très bien. Mais bon, Nice reste quand même une équipe qui a pas mal investi l'été dernier, moins que d'autres, certes. Mais Stengs Kluivert, pour moi, si c'est un échec, je le mets plus sur le coach qui est venu de Lille avec sa méthode, son système, ses principes, et qui ne s'est peut-être pas cette fois assez bien adapté au matériel qu'il avait à disposition. Et au-delà de ça, il y a aussi, sur la finale de Coupe de France, quelque chose qui m'a marqué, c'est que c'est une équipe qui prend très très peu de risques avec le ballon, c'est-à-dire que face à Nantes... face à un 5-3-2 où il fallait manœuvrer sur la largeur et réussir à aller assez rapidement d'un côté à l'autre du terrain, et ben tu passais par tous les relais possibles par tes défenseurs, là où normalement tu avais la place pour essayer de tenter une transversale, pour essayer de toucher l'ailier ou le latéral qui était à l'opposé, pour que ce latéral puisse aller provoquer. Donc j'ai vraiment du mal, il a failli refaire le coup de la saison dernière, je pense qu'il a manqué... un petit peu de baraka sur certains matchs, mais ils en ont tellement eu, ça a tellement tourné dans leur sens pendant pas mal de temps dans la saison que les voir finalement tomber et rater le final, c'est ce qui aurait peut-être pu arriver à Lille l'année dernière en fait.
Et très très peu de mouvement, je trouve, Christophe, dans le jeu niçois, et c'est criant sur les moments où le ballon circule entre les centraux et avec les latéraux, c'est que la ligne qui est devant, alors les deux milieux déjà sont pas forcément les plus mobiles, en tout cas à part quand il y a Kefren Thuram qui bouge un peu, et les attaquants sont pareils en attente, il n'y a pas beaucoup de déplacements coordonnés. Moi, je trouve que c'est vraiment une des équipes les plus statiques du championnat, et Suelo dit souvent que la maladie d'une équipe c'est d'être statique, et là pour le coup c'est une équipe qui, quand elle a le ballon contre un bloc médian ou un bloc bas qui est déjà en place, a très très peu d'idées pour marquer des buts. C'était déjà un peu le reproche qu'on pouvait faire à Galtier sur certaines périodes à Lille et sur ces périodes stéphanoises.
Oui, à la différence que là en ce moment il se trouve pas tellement les sauveurs qu'il avait pu se trouver l'an dernier, parce que il y avait eu la période David, la période Arojo, la période Yilmaz, enfin voilà.
Il y avait la période Nicolas Pépé aussi à une époque.
Oui, bon, ça c'est
avant ça, je veux dire.
C'est saison d'avant, mais effectivement, il avait, bon, en plus là, avec Pépé, ça joue en 4-2-3, ça joue pas en 4-4-2. Mais bon, ce 4-4-2 là, Lillois avait de vraies vertus, hein, mais pour moi, en gros, il était le meilleur quand... en gros, t'arrivais à mettre la balle dans le camp adverse, et ensuite, tu te mettais en bloc médian infranchissable, et tu la récupérais entre 20 et 45 mètres du but adverse, et puis ensuite, en 2-3 passes, tu pouvais réussir à te montrer dangereux. Cette équipe lilloise, je trouvais, était pas tellement pressée, et je me disais à chaque fois, bon... Même si Soumaré, par exemple, avait des vraies qualités pour sortir le ballon, et Sanchez s'y jouait aussi, André peut aussi faire la première passe. Mais bref, chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui se passerait si on pressait un peu plus cette équipe? Nice a le même dispositif, mais je trouve peut-être encore moins de qualité pour ressortir le ballon proprement, en tout cas pour créer de la part des deux milieux axiaux, sachant qu'en plus, sur les deux postes d'ailier, il y a généralement un des deux postes qui est occupé par un troisième milieu axial. Typiquement Boudaoui, ça aurait pu être Thuram aussi à certaines périodes de la saison. Galtier a essayé de mettre deux purs ailiers ou un attaquant et un ailier, ça n'a pas forcément fonctionné, genre avec Kluivert et Stengs, ou Kluivert et Gouiri dans les couloirs, ou Stengs et Gouiri, mais bref, il n'y a pas eu vraiment d'animation qui était hyper bonne. En gros, il n'y a jamais eu de moment où tu dis, ah, sur les quatre postes de milieu, il y a un vrai un peu numéro 10 qui peut conserver le ballon, un peu orienté, etc. C'était un petit peu, je trouve, découpé en fait. T'avais les joueurs qui courent, les joueurs qui essayent de combiner devant, les joueurs qui essayent de récupérer le ballon. Donc déjà, je pense que ce que je disais tout à l'heure sur Lyon qui a bien pressé Nice, c'était relativement facile parce que les deux milieux axiaux étaient pas forcément, en plus il me semble qu'il y avait Schneiderlin sur ce match-là, hyper disponible et hyper capable de prendre l'information et de faire cette première passe vers l'avant. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait ce système-là, il est, c'est pas qu'une impression, hein, il est hyper hyper pertinent pour défendre, maintenant que pour l'animer, si tu fais pas un peu de choses avec des déformations, des asymétries, etc., faut que ça repose beaucoup sur les joueurs, en fait. Et je trouve que ces joueurs-là n'ont jamais su dépasser vraiment leur fonction. C'est un terme un petit peu bidon, hein, mais en gros, l'ailier de débordement, il allait toujours être un ailier de débordement. L'attaquant qui décroche, il allait toujours décrocher. Il n'y a pas eu beaucoup de permutations. Et de manière générale, je trouve en plus, alors je sais pas à quel point c'est imputable à l'entraîneur, à quel point c'est imputable au système, etc. Mais je suis hyper, hyper déçu. Au-delà de Stengs, parce que peut-être qu'il a simplement pas le niveau pour jouer en Ligue 1, ou qu'il y a un problème d'adaptation. On n'a pas vu dans d'autres contexte en Ligue 1.
Peut-être pas la
Par
caisse,
contre, Gouiri, peut-être pas la Gouiri caisse. J'ai vraiment beaucoup de mal sur ce qui se passe avec lui depuis plusieurs mois. Quoi.
Une stat sur Gouiri, depuis le match à Marseille en Coupe de France, le 9 février, où il avait marqué, ça avait été d'ailleurs peut-être un des derniers gros matchs de Nice, il a signé en championnat un but et une passe D, donc depuis le 12 février.
Oui, dans un gros creux. Bah après, il avait
démarré très fort.
Oui, il avait pas mal porté Nice en fait, hein, sur la première moitié de saison. Ouais. Donc 8 ou 9 buts il a dû mettre sur la première moitié de saison, j'imagine, vu qu'il est à 18 là.
Mais pour moi, c'est leur seul joueur un peu total, c'est-à-dire qu'il peut décrocher pour te faire avancer, il peut partir dans la profondeur, il peut éliminer en 1 contre 1. Mmh. Tous les autres sont un peu plus spécialistes. Il y a trop de spécialistes dans cette équipe, je trouve. Il y a trop, tu vois, Lemina Rosario, on sait ce qu'ils savent faire, on sait ce qu'ils savent pas faire. Delors et Dolberg, c'est pareil. Boudaoui, Kluivert, c'est pareil. Melvin Barre, on sait ce qu'il sait pas faire. Il y a très peu de joueurs. Il y a Todibo qui est un peu capable de faire plein de choses.
Ouais.
C'est tout.
Ouais, Todibo. Autant Gouiri devant, en effet, sur la première moitié de saison, il les porte et il est pour beaucoup dans le dans le bon bilan de Nice à ce moment-là. Mais c'est vrai que Todibo derrière, moi, il m'a impressionné plus d'une fois dans les duels. Notamment, après, le truc, c'est qu'avec le ballon, on le voit assez peu, vu que les centraux sont pas responsabilisés sous Galtier, ça part très vite sur les côtés. Mais oui, c'est sûr que Gouiri devant et Benitez aussi, qui fait une grosse saison, et ça c'est une habitude quand même. On a eu Nicolas Déon sur Copa Arena, vous pouvez écouter, il nous parle un peu de Walter Benitez qu'il a, puisque c'est l'entraîneur des gardiens de l'OGC Nice. Donc vous pouvez aller écouter ça. Mais oui, un bon gardien, un bon attaquant et un bloc solide, tu peux aller chercher l'Europe. Mais là, et quand tu perds l'attaquant au milieu,
le dernier joueur qui m'a un peu fait, qui m'a vraiment fait frissonner parce que je l'aime bien, il est capable de faire plein de choses, c'est Thuram aussi, qui au milieu de terrain a mis des idées, un peu de puissance parfois, de la qualité technique, des buts aussi dans des moments importants. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de joueurs qui nous ont fait bouger cette saison à Nice. Et le Dolberg. Je pense qu'il est temps de payer la facture là, pour Casper Dahlberg, et il faut repartir parce que c'est un attaquant que je trouve très très inintéressant quand il est pas quand il fait autre chose que frapper. Je pense que notre partie sur Football Manager joue un peu dans ma tête, ce qui nous avait pas mal énervé, mais je trouve ça vraiment très limité dans ce qu'il est capable de faire dans une équipe, même si Nice n'est pas forcément l'équipe qui demande le plus de choses à ses attaquants dans son jeu sans ballon et dans ce qu'il peut faire dans les décrochages et tout ça, mais je le trouve pas très intéressant comme joueur, Casper Dahlberg. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que l'Ajax, à un moment, l'a laissé partir, parce qu'il savait qu'avec leur style de jeu, ça pouvait pas coller sur le long terme.
Ça collait déjà plus trop, hein, avant qu'il parte.
Il avait perdu sa place, de toute façon.
Ouais, il avait perdu sa place. C'est vraiment c'était le grand nom, le moins grand disponible, ouais, je pense, à ce moment-là, sur le marché des transferts.
Votre appréciation de la saison niçoise.
J'ai mis potentiel inexploité, réciter par cœur ne suffit pas. Trois petits points.
Ouais, je vais pas ajouter quoi que ce soit. J'étais pas loin de l'avertissement. Ils ont quand même fait une 30 journées. Quand est-ce qu'ils commencent à chuter? C'est dans cette période-là, je pense.
C'est, ouais. Peut-être un petit peu avant.
Ouais,
c'est mars, en fait.
C'est début mars.
Contre Marseille, le 20 mars.
Il leur manque 2 mois, quoi, dans la saison. Mais... Oui, à voir l'année prochaine. Il faudra pas trop se tromper sur les changements de joueurs. Il faudra voir si Galtier réussit à trouver. Moi, je serais pas surpris qu'ils aillent chercher des Lillois cet été, que Galtier connaît
mais
déjà.
Mais lesquels?
Un petit Bamba là, un petit Bamba là.
Oh, arrête, non. T'es bêtise.
Je serais tellement content.
Non, non, non. On va passer à la quatrième place. Oui. Le Stade Rennais. Qui vit une saison très différente de Nice sur le plan du jeu. 20 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 80 buts marqués, 38 encaissés, 65 points en 37 journées. Un parcours européen qui s'est arrêté peut-être un peu tôt, malgré des bons matchs. Et puis, bah, c'est l'équipe la plus sympa à voir jouer du championnat, Christophe. En tout cas, celle qui a fait les matchs, je trouve, les plus marquants. Ceux contre le PSG, celui contre Lyon, celui contre Marseille récemment, c'était vraiment pas mal non plus. Il y a eu des gros scores aussi contre Metz, contre Bordeaux, où ils avaient massacré Bordeaux. À Saint-Etienne aussi, ils gagnent 5-0. Voilà. Il y a eu beaucoup de bons matchs de la part de Rennes, à domicile contre Clermont aussi. Beaucoup de bons matchs de la part de Rennes, mais aussi beaucoup de défaites. Et ça, c'est peut-être la partie étonnante, notamment contre le haut de tableau du championnat. C'est là qu'ils risquent de perdre leurs ambitions européennes.
Bah ouais, Rennes a perdu plus de fois que Lille. 12 défaites en 37 matchs, c'est quasiment 1 sur 3. C'était 1 sur 3 juste avant la victoire à Marseille ce week-end. Et forcément, ça ternit un petit peu un bilan qui, malgré tout, encore une fois, on n'est pas des comptables, on n'est pas des épiciers. On est obligé de se rendre compte que on regarde les matchs, on prend du plaisir devant cette équipe rennaise. Les résultats suivent quand même, parce que c'est vraiment extrêmement serré. On enregistre juste avant la dernière journée, on verra ce qui se passe, mais dans tous les cas, Rennes, s'il n'y a pas de qualification pour la Ligue des Champions, ça se jouera pas à grand chose. Je pense qu'il n'y a pas de surperformance sur le plan des points, vu les investissements qui ont été faits, qui sont quand même assez importants. Maintenant, sur le plan du jeu, là, il y a une vraie patte Genesio, il y a des vraies choses qui se passent. Déjà, il y a ce côté quand même où ça pouvait partir en 1, on va faire un 4-3-3 avec des ailiers de débordement. On va mettre, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on met Soule, Nemanja et Doku sont un peu tous les deux les plus à l'aise du même côté? Est-ce qu'on en met un sur le côté, pas forcément fort, etc. Et au final, les deux, bon, qui sont tout le temps blessés, mais ont un peu, même beaucoup disparu de la circulation, tu joues totalement différemment et t'as au contraire du Maier, du Terrier, du Bourigeau qui sont vraiment les joueurs qui te portent sur cette saison. Rien que ça, mine de rien, ça met au crédit de l'entraîneur parce que du coup, on est quand même sur un plan, je sais pas si c'est un plan B, mais en tout cas, il y a eu une évolution entre ce qui était potentiellement attendu sur la façon de jouer et la façon dont ça s'anime vraiment. C'est évidemment cette surperformance, en tout cas ce jeu hyper flamboyant, etc. C'est en partie lié à des choses qui ne dépendent pas uniquement de la mise en place tactique. C'est-à-dire que le niveau de Terrier, il est mis dans les bonnes conditions, il y a le discours de l'entraîneur, etc. Mais cette progression-là, elle t'offre, je pense, c'est un plus 10 buts peut-être sur ta saison, et celle de Bourigeau, ça te refait plus 5 ou 10 buts. Voilà.
Terrier est déjà à plus 6 buts.
Ouais, plus 6.
Et Bourigeau est à plus 5.
Voilà, donc t'es sur une bonne dizaine de buts. Mais... plus Terrier avec toutes ses expected assists et ses passes D, là où il fait encore 2 passes décisives du mauvais pied l'autre jour.
Mais la board est à moins 4-5. Moins 4 ou 5. Ouais.
Oui, ouais. C'est un petit peu le point négatif, mais en plus, ce qu'il faut dire aussi, mine de rien, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire sur l'animation assez fluide de Rennes, toutes les courses, Florent l'a dit dès les premières semaines de la saison, c'est une équipe qui a énormément de gros moteurs, certains comme Santa Maria qui courent tout le temps relativement vite, même si c'est pas des sprinteurs, un Maier qui court pas très très vite, enfin, quoi qu'il y a pas une énorme différence entre les
mais
deux.
Longtemps.
Mais bref, mais ouais, longtemps, c'est vraiment des profils que je catégorise à la Kimmich, à la Brozovic, qui sprintent jamais, mais qui font 12 bornes à tous les matchs parce que ballon sans ballon, ils sont toujours dans la disponibilité, toujours dans le mouvement. Et c'est vrai que Rennes, il y a quand même beaucoup de courses généreuses ou sacrifices, comme on les appelle, mais qui permettent de libérer les partenaires. Donc, mine de rien, sur ça, sur le volume athlétique, il y a vraiment beaucoup de belles choses. Après, faut aussi se dire que les contre-performances rennaises sont assez souvent liées à l'absence d'Aguerd et que Omari tout seul, soit avec Santa Maria, soit avec, je me semble qu'il a fait un ou deux matchs avec Badet peut-être, mais en tout cas les matchs sans Aguerd, c'était pas la folie. Et si Aguerd n'est jamais blessé de la saison, peut-être que Rennes est tranquillement deuxième.
Et avec la CAN aussi où ils avaient perdu des points aussi.
Voilà. C'est vrai que blessure CAN. Donc les 12 défaites sont effectivement à mettre en partie au débit de l'entraîneur et de cette équipe, mais elles ont plus d'explications que les 11 défaites de Nice, à mon sens, par exemple. Et j'ai eu vraiment gros coup de cœur de cette saison parce que t'as à la fois le jeu et puis, encore je le disais, des individualités qui se révèlent à 24, 25, 26 ans, chose qui n'est pas si courante que ça.
Et un bon mercato. Donc on va parler de Vromayer, il y a Birger Meling qui est arrivé aussi, qui fait une belle saison en alternance avec avec Adrien Truffert. Faut se souvenir que c'est une saison au début de laquelle Kamavinga part et puis tu le sens quasiment pas au cours de la saison. Ça c'est très positif aussi. Flo, après le stade rennais, si
tu après Kamavinga sur la deuxième partie de saison dernière aussi, tu le sentais plus trop non plus.
Il était déjà parti. Ouais. Voilà. Ton appréciation, Flo, si tu veux, comme ça, pour rebondir sur tout ce qu'a dit Christophe.
Ouais, bah, j'aurais donné les félicitations sans cet effondrement dans la dernière ligne droite. Alors, effondrement, c'est un grand mot, mais c'est vrai que la défaite face à Nantes, tu risques d'en parler pendant très 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 longtemps de celle-là. Parce que
la défaite à domicile contre Monaco aussi, elle te coûte cher.
La défaite à domicile contre Monaco. En fait, depuis avril, là, tes trois défaites, c'est Monaco, Strasbourg et Nantes. Et elle te coûte très 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 cher parce qu'en plus, bah, comme tu le dis, tu donnes 3 points à Monaco. Aujourd'hui, tu as 3 points de retard sur Monaco, quoi. Mais sinon, sur la saison, oui, bah, Rennes, quand tu vois le 4-4-2 de Genesio, tu as un 4-4-2 de toute façon. On a parlé de Nice juste avant. Voilà, bah, c'est la rigidité contre la fluidité en fait.
D'ailleurs, oui, on dit 4-4-2, mais c'est quasiment du 4-3-3 parfois, parce que Bourigeau, enfin asymétrique quoi.
Oui, Terrier
qui revient intérieur, Laborde qui est avec lui, et Bourigeau qui colle un peu sur la ligne, mais qui peut venir intérieur de temps en temps, c'est ça qui est intéressant.
C'est justement la clé d'un bon 4-4-2, c'est quand tu arrives à sortir du carcan du 4-4-2 grâce à la polyvalence de tes joueurs. Une autre équipe qui avait fait, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, le Monaco de Jardim 2017. La force de leur animation, la force de leur 4-4-2, c'est justement qu'il y a des joueurs qui sont capables de sortir de leur position de base pour ouvrir des espaces à d'autres, et c'est cette générosité après dans les courses qui permet de l'animer et de le rendre difficile à défendre. Et ce que fait Rennes, c'est vraiment un modèle sur lequel devrait bosser sans doute Nice la saison prochaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour ça, en effet, comme le disait Christophe, le fait d'avoir des joueurs avec un vrai, vrai gros moteur, c'est peut-être ça aussi qui diffère de l'expérience de Genesio du côté de Lyon, où on a quand même eu très souvent des joueurs qui, sur le plan des efforts, ne se faisaient pas toujours violence. Là, vraiment, les mecs sont à bloc, ou en tout cas, ont la capacité à être à bloc de la première à la dernière minute. Et ça, je pense que ça fait énormément de différence dans sa capacité à justement mettre en place ce qu'il veut vraiment mettre en place, quoi.
Parce que, par contre, il a ressorti les mêmes discours après les mauvais résultats, manque d'expérience, effectif jeune, etc. C'est ce qui énervait un peu les supporters lyonnais à l'époque, et ça a un mot un peu tendu les supporters rennais aussi. Parce que tu peux pas tout le temps t'appuyer là-dessus pour expliquer des performances. C'est que quand ça gagne, c'est peut-être aussi cette fraîcheur-là et cette mobilité-là, cette jeunesse qui te permet de gagner. Donc,
oui.
Même si tout le monde n'est pas non plus très très jeune. Hein. Le milieu Jonas Martin, Flaviente et Lovro-Mayer, les mecs n'ont pas 18 ans, ou Santa Maria quand ils jouent.
T'es aussi dans la progression sur le tard.
Oui, oui.
C'est
Iniesta, le Iniesta du Roazhon Park.
Ouais. Je n'irai pas jusque-là, mais...
Non, mais je disais 4-3 asymétrique à Flo tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui joue vraiment côté gauche dans cette équipe, à part le latéral.
Ouais, le latéral qui apporte la largeur, même.
Ouais. Alors que Bourigeau est un peu plus excentré du côté droit, donc t'as cette...
Il faut quand même noter...
Cette asymétrie.
Il faut quand même noter qu'en termes de passes D, Bourigeau termine à 12, et derrière lui, Amari Traoré sort 10 passes décisives aussi, sur la saison.
Mais le chiffre de passes clés de Bourigeau, là, est sensationnel. En Europe, il a je sais pas combien de passes clés d'avance. Il y en a beaucoup sur coup de pied arrêté.
Il est à 3,44 par match, là, sur Understat.
Mais son total en Europe est premier, je sais plus combien devant le deuxième. C'est ahurissant l'écart qu'il y a. Là aussi, il faudra voir s'il reste à Rennes ou pas.
Et petit truc, Christophe l'évoquait rapidement. J'ai revu un but de Souleymana en début de saison, but qu'il met contre Metz, je ne sais pas si vous en rappelez, Mais
Ah oui, le pointard, là, pour savoir éliminer un. Oui.
En fait, j'ai revu ce but, j'ai dit, ah ouais, putain, c'est vrai qu'il joue là-bas lui aussi. Ouh là là.
Et son match sur l'aller face à Paris, face où à en Paris, plus, il fait des efforts défensifs et tout. Oui, il y a presque trop de matériel, mais tant mieux. Hein. Mais quand tout le monde sera apte, faudra voir comment est-ce que tu. Si t'as pas des cas où finalement tu fais des mauvais choix, parce que t'as trop de monde après, même si je pense qu'il y a des gens qui vont partir cet été. Mais t'as un propriétaire qui est richissime. Donc, du coup, après, s'il veut garder, il peut essayer de revaloriser, quoi.
Tu as quand même de bonnes chances d'avoir une Coupe d'Europe, donc tu auras du temps de jeu pour pas mal de joueurs, avec les coupes aussi, enfin la Coupe de France. Pourquoi pas pour le Stade Rennais. Un mot, une conclusion, messieurs, sur Rennes.
Mon appréciation, élève très actif en cours, mais la participation ne dispense pas de rester attentif.
Oh, c'est très travaillé.
Il y a du travail.
Il est entré dans la corporation des professeurs, hein. C'est beau ce qu'il
fait. Mon année scolaire est terminée, là je suis...
Un Christophe Kufli. T'es sûr? Il y avait un doute à un moment, je ne sais pas.
J'ai fait un cours avec 3 élèves. Ah. Donc le cours, bon, voilà quoi. Du coup, j'avais débriefé ma participation au tournoi de la presse, où la Voix du Nord a évidemment terminé dernière, mais en ayant le trophée du fair play, et en ayant dégommé le buffet, donc du coup, un tournoi tout à fait réussi. Bon, en plus, j'ai marqué le premier but de l'histoire de mon équipe.
Ce qui sera
sans doute... Non, pas le dernier, mais mon dernier, sans doute, à titre personnel. Et il pose la question de pourquoi pas reprogrammer le cours en disant... finalement, il manquait quand même pas mal de monde. Donc peut-être qu'il sera reprogrammé, mais sinon, mon année scolaire est terminée. Et donc voilà, la participation ne dispense pas de rester attentif pour les Rennais, pour arrêter de parler de choses qui n'ont rien à voir.
Troisième place, et là c'est bien la troisième, puisque Monaco est devant la différence de but. Troisième place, c'est l'Olympique de Marseille. 20 victoires, 8 nuls, 9 défaites, 59 buts marqués, 38 encaissés, 68 points. Avant la dernière journée où Marseille va recevoir Strasbourg, Florence, c'est une saison qui pourrait, sur le dernier mois, là, les 6 dernières semaines, entre la Ligue Europa Conférence et la Ligue 1, pourrait basculer vraiment du mauvais côté pour Marseille, et c'est aussi pour ça qu'évaluer cette saison et lui donner une appréciation sera pas simple, je trouve.
Moi, je vais donner l'appréciation directement, j'ai juste mis manque de participation, faut se lâcher. Voilà.
C'est un élève un peu timide.
Élève un peu trop timide, en effet, qui a les fondamentaux, ouais, qui récite très bien ses partitions.
Qui est très scolaire.
Qui est très scolaire, en effet. Il est fait pour ça, mais c'est vrai que, y a pas, tu vois, pour survivre dans le monde après, t'apprends pas tout à l'école, en fait. Donc, c'est peut-être ça le problème. Non, c'est vrai que ça avait très bien démarré, avec un système. Clair en place, qui n'a pas bougé, mais ce sont plus les joueurs qui ont changé pour animer ce système. Et quand Marseille a notamment perdu ses joueurs de percussion sur les ailes, ils ont déjà perdu une bonne partie de ce qui faisait leur spectacle, en début de saison.
Sampaoli a quand même de plus en plus penché vers un 4-3-3 assez classique au fil de la saison. Avec des joueurs pas forcément dans des positions classiques, mais une disposition plus classique.
Disposition plus classique. Après, t'avais toujours... le changement avec ballon, sans ballon, etc. On passe à 5 ou on passe à 3 derrière, parce qu'il y a aussi pas mal eu le 5-4-1 quand même sur la fin de saison.
Mais on l'a moins vu avec ballon, alors qu'au début de saison, il y avait quand même la défense à 3 pour ressortir, il y avait des trucs intéressants, on l'a moins vu sur la deuxième partie de saison.
Ouais, après le troisième, c'était soit Paulo Lopez qui sortait, soit Camara qui décrochait entre les joueurs. Ouais. Mais la saison de Marseille, je pense que oui, t'as le début idéal, je pense qu'il y a vraiment un match bascule, c'est cette défaite contre Lens. Au Vélodrome, sur la première moitié de saison, la défaite 3-2. Et c'est cette défaite-là qui a vraiment, je pense, changé pas mal de choses dans la réflexion de Sampaoli. Parce qu'en fait, on a vu quand même tout au long de la saison, tu vois, il y a des équipes qui n'ont pas bougé de la saison, il y a des équipes qui ont tout changé de temps en temps. Et Marseille, tu vois, je pense que si tu retraces toute leur saison, tu peux voir les moments où Sampaoli... capte quelque chose et choisit de modifier et ensuite continue sur une nouvelle ligne, mais en partant d'un projet initial. Alors c'est vrai que tu peux regretter pas mal de choses parce que tu as perdu en spectacularité ce que tu as gagné en contrôle, et c'est peut-être ça que tu vas payer d'ailleurs par rapport à Rennes qui a tout misé peut-être sur l'allant offensif, etc. Mais après, quand tu vois l'effectif marseillais, tu dis, est-ce que c'est une équipe qui aurait pu soutenir un projet de jeu face en Rennes? Quand ton leader technique, c'est Payet qui avance plus trop, quand t'as pas non plus d'immenses joueurs sur le plan du volume ou de la vitesse, quand ton attaquant de pointe c'est Milik par exemple. Donc
après, c'est les joueurs qui l'a réclamé, hein. Il a réclamé Luan, il a réclamé Gerson.
Oui, absolument. Tu vois, absolument. Mais je reviens sur ma, je finis sur mon truc. Faut se lâcher et faut espérer pour eux qu'ils arrivent à sortir de cette dernière journée en gardant cette place sur le podium. Déjà la deuxième, ça va être compliqué puisqu'ils n'ont plus leur destin en main. Mais ça serait bête quand même de laisser filer la Ligue des Champions quand t'as été sur le podium, je pense, peut-être depuis, 30 journées ou quelque chose comme ça, je sais pas.
Je vous donne la stat de buts marqués par match de Marseille après la défaite à domicile contre Lens. Donc le 26 septembre, Marseille perd 3-2 à domicile contre Lens. Derrière, il y a match à Lille, 0 but marqué. Contre Lorient à domicile, là, il y a 4 buts marqués. Et derrière, au Parc des Princes, 0 but marqué. Contre Nice, 1. Contre Clermont, 1. Contre Metz, 0. Contre 3, 1. Contre Nantes, 1. Contre Brest, 1. Contre Strasbourg, 2. Contre Reims, 1. Contre Bordeaux, 1. Contre Lille, 1. Et après, ça se remet à marquer. Mais en gros, après la défaite contre Lens, il y a 2-3 mois où Marseille a adopté une approche complètement différente. Et c'est celle-là qui aura finalement emporté l'esprit de Sampaoli sur la globalité du championnat, Christophe.
Ouais, je pense que ça sert à rien de faire extrêmement long parce qu'on a parlé beaucoup de Marseille dans les épisodes dédiés aux coupes européennes. D'abord Ligue Europa, puis Ligue Europa Conférence. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que, alors encore une fois, moi je suis pas forcément opposé à ces approches de contrôle. Je suis même plutôt, je pense, sur le spectre de tous les suiveurs de foot parmi les gens qui sont le plus clients des matchs à 70% de possession où il se passe pas grand chose, mais où t'es 100% maître de ton destin. Typiquement le match retour face à Lens où Lens ne sort pas de son camp, Marseille se crée pas grand chose mais ne concède globalement rien, et ça par exemple je pense que c'est hyper fun à suivre pour une partie des fans ou des téléspectateurs par rapport au match face à Angers, mais j'ai beaucoup plus apprécié ce match là que celui face à Angers, que je trouvais assez bête finalement, assez débile, but à but. Alors tant mieux, ça fonctionne, mais je trouvais pas forcément reproductible.
Et d'ailleurs Sampaoli l'a trouvé bête puisqu'il n'est pas du tout resté sur ce système après.
C'est ça, cette espèce de losange, hop, dégagé direct.
Et quand tu revois le match, tu te rends compte que Angers mène très vite 2-0 parce qu'ils sont totalement paumés. Et si Marseille revient et en met 5, c'est aussi en grande partie parce que Petkovic en face en donne peut-être 3 au minimum.
Ouais. Et en plus, t'as une balle, ça revient à 2-1 sur rien, enfin sur un but difficile à marquer. Et derrière, t'as un face-à-face de 3-1 qui est raté. Donc bon, ça peut tourner de très mauvaise manière assez facilement.
Est-ce que le nom Petkovic, entre le gardien d'Angers et l'entraîneur de Bordeaux, n'est pas le nom le plus impliqué dans le plus de buts de l'histoire de la Ligue 1? C'est quand même des gens qui aiment bien qu'il y ait des matchs à but, tu vois. Parce que Petko, à Bordeaux, c'est lui qui a connu les plus gros scores des Girondins.
Oui, sauf si tu... Je sais pas, il doit y avoir des Durants. Tu prends Eric Durand et un autre Durand à l'échelle de l'histoire de la Ligue 1. C'est impossible de trouver pire. Mais effectivement, là, les Petkovic, cette saison, en tout cas, c'était assez compliqué. Non, mais voilà, Marseille, si c'était toujours ultra maîtrisé, ok. Là, le problème, c'est que, tu te fais toujours tuer en profondeur, et ça c'est quand même embêtant, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'as la balle que tu dois forcément toujours te faire tuer en profondeur. Parce que des fois c'était sur les séquences où c'est pas une transition d'adversaire, hein, c'est juste l'adversaire qui a la balle et qui balance loin devant comme face à Feyenoord.
Ouais, c'est ça.
Et de manière générale, je reste sur ce que j'avais écrit dans un article sur Eurosport, c'était ma conclusion à l'époque, elle a pas bougé. Je préfère les équipes comme City qui font attaquer enfin, qui essaye de défendre avec des joueurs offensifs. C'est-à-dire, en gros, tu mets De Bruyne, Bernardo, relayeur, et tu leur dis, bon, bah, vous allez parfois devoir défendre, que d'essayer d'attaquer avec des joueurs défensifs, genre mettre Guendouzi qui se projette dans la surface, quoi. C'est vraiment, vraiment mon idée, ou Pape Gueye qui se retrouve milieu gauche, je crois, à devoir déborder. Donc, je préférerais toujours une équipe qui aligne 6-7 profils offensifs, et il y en a 2-3 qui vont devoir faire le sale boulot, qu'une équipe qui aligne 3 profils offensifs, et il y en a 3 qui sont plutôt défensifs, mais qui vont devoir essayer de transformer leur qualité, parce que je pense que c'est plus facile de demander à un mec créatif de faire le sale boulot, parce que parfois c'est pas incompatible, des Eriksen au top, des De Bruyne sont capables de mettre le pied et de courir, alors qu'un Guendouzi, beaucoup de qualité, mais c'est l'exemple que je prends parce qu'il joue tous les matchs, ne va pas se mettre à dribbler tout le monde et à devenir un super finisseur du jour au lendemain. Donc c'est vrai que les compos d'équipe de Sampaoli, avec parfois quasiment aucun joueur offensif, m'embêtent 1000 fois, 10 000 fois plus que l'utilisation de Milik ou des choses comme ça qui ont beaucoup cristallisé les débats cette saison.
Et alors, c'est pas en Ligue 1, mais il faut dire que la demi-finale retour contre Feyenoord, le 0-0, là, m'a mis un coup, et je trouve a mis un coup dans la saison de Marseille en termes de volonté de jouer ou non, d'aller chercher un match. C'est un match que je devais débriefer pour l'équipe.
Ouais.
Et il a été tellement nul qu'on s'est mis d'accord avec le responsable de la rubrique pour ne rien écrire sur cette rencontre. C'était vraiment horrible. Les appréciations, s'il y en a, est-ce que tu l'as donné, Christophe, ton appréciation?
Non, Florent l'a donné en entrée, oui, mais moi c'est à peu près la même. Changement décevant d'attitude en cours d'année, bon élément qui s'est isolé de la classe. Donc on revient sur la notion de timidité de Florent.
C'est vraiment travaillé et c'est beau ce que tu nous proposes. La deuxième place, celle de Monaco. 20 victoires, 8 matchs nuls, 9 défaites, 63 buts marqués, 38 buts encaissé et un retour en fanfare sur la fin de saison, puisque Monaco est donc à 8 ou 9 victoires de suite. Je crois qu'ils sont à 9 maintenant. Ouais, ils sont à 9 victoires de suite, dont la dernière en date contre Brest, dans un match où ils se sont créés encore beaucoup d'occasions. Florent, ils nous font un peu une Genesio 2017, là, quand ils récupèrent l'équipe et que sur une demi-saison, ils ramènent Lyon très haut. Pourtant, Philippe Clément était à deux doigts de prendre la porte il y a quelques
semaines. Ouais, moi j'ai mis ce réveil pour les examens frustrant. Pour l'appréciation. Non, parce que ouais, tout au long de la saison, alors que ce soit avec Kovac ou au début avec Clément, tu voyais plus forcément, en tout cas tu voyais plus du tout déjà le Monaco de l'année précédente. Alors Kovac a dû gérer l'ajout d'une dizaine de matchs quand même sur la première moitié de saison, parce qu'il y avait les barrages, les tours de barrage de Ligue des Champions, où ils sont tombés de manière assez... injuste face au Shakhtar à l'époque, si vous en rappelez.
Fait un super match.
Ouais.
Le match retour, en tout cas, ils avaient été très bons.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que la suite, bon, on les a vus naviguer, on les avait surtout vus en Coupe d'Europe sur la première moitié de saison. Et c'était pas ouf, mais ils avaient pris les points, ils avaient réussi à sortir de leur poule. Et là, sur la deuxième, Clément arrive, tu vois pas forcément. Alors, il fait des tests, on voit du Caio Henrique en 10, on voit. Qu'est-ce qu'on a vu de spécial encore?
Tchouaméni en 6.
Ouais, le 4-1-4-1, il a duré un moment avec Tchouaméni seul devant la défense. C'était vraiment catastrophique.
Il y a l'arrivée de Vanderson. Positive.
Finalement, il y a l'arrivée de Vanderson. On est revenu au milieu à deux ensuite dans les journées qui ont suivi. Et finalement, ça s'est mis en route. Je pense aussi qu'il y a un joueur qui change énormément de choses. Et c'est le seul moment de la saison où il a réussi à enchaîner les matchs. C'est Golovin, qui pour moi, dans cette équipe, change... Totalement les choses, parce qu'il apporte une créativité avec sa palette de passes que les autres joueurs, on va dire les milieux offensifs, n'ont pas. Diop n'a pas sa qualité de passe, je cours, je long, il n'a pas la palette. J'en cherche l'autre, Gelson, j'en parle même pas. C'est pas du tout le même type de joueur, mais je pense que...
Crépin, Diatta.
Ouais, Diatta, ben non plus, on est plus sur du Gelson, et encore on le voit très peu, il est encore blessé, je crois. Je sais même pas s'il est revenu récemment.
C'était pour vous aider à vous souvenir qu'il existait.
Non, mais voilà, je pense que le retour de Golovin aussi est pour beaucoup dans la bonne performance et la bonne fin de saison. Et il y a aussi un Nubel qui était un petit peu moyen, on va dire, sur la première moitié de saison, qui, il me semble, a bien rattrapé les choses. Je crois que sur FBRF, c'est le deuxième gardien le plus performant de la saison, derrière Benitez, quand on prend les post-shot XG et la performance du gardien de but. Donc voilà, ça a bien tourné, et le truc, c'est difficile de se dire ça a bien tourné grâce au boulot du coach. Je pense que c'est plus les joueurs que j'ai cités qui reviennent au bon moment.
Et Ben Yedder qui te met des buts. Ben Yedder qui met des buts, c'est important aussi.
Et puis quand tu vois la fin de saison, les matchs joués, les adversaires affrontés, t'as aussi le calendrier, parce qu'en fait, certes, il y a cette victoire à Rennes qui sort de nulle part. Christophe, on avait assisté à ce match et c'était...
Et le match contre le PSG qui était encore en train de décuver.
Oui,
de...
oui, oui, ils mettent, par contre, ils mettent une belle volée au PSG. Mais tu vois, sinon, tu prends... c'est Metz 3. Alors, il y a cette victoire contre Nice, mais Nice qui était déjà sur la pente descendante. Saint-Etienne, Angers, Lille qui ne jouait déjà plus rien à 3 journées de la fin. Et là, Brest, où en plus, t'es mené 2-0 et t'as renversé le truc. Donc il y a cet aspect dynamique qui s'est lancé vraiment au bon moment aussi pour Monaco. Et on sait que de toute façon, la Ligue 1, il suffit de rester à portée, de faire la bonne série au bon moment en fin de saison et tu peux aller arracher l'Europe. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi haut quand même.
Oui, non, moi non plus. Je les voyais beaucoup trop loin. Mais là, ils sont en train de faire un retour tonitruant.
Mais notons quand même qu'on risque d'avoir le deuxième au nombre de points le plus faible depuis quelques saisons, je crois. Aussi.
Oui, ça aide aussi. Là, ils sont à 68 en train de...
L'an dernier, on en avait 4 au-dessus de 75 ou 76, je crois, par exemple.
L'an dernier, on avait ça ?
Bah ouais, t'avais Lille, Monaco, Lyon, Paris qui étaient ensemble.
Ah oui, ils jouaient tous le titre en plus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et il y avait eu la saison il y a 3-4 ans aussi, là où l'année où Marseille va en finale de Ligue Europa, où il y a 3 équipes au-dessus de 77. Et Marseille rate la Ligue des Champions en arrivant à 77 points. Je remonte, 2019, Lille et Lyon finissent à 75 et 72. Saint-Étienne à 66 et 4e. Et 2020, c'est l'année Covid, donc on n'aura pas, pas le total, mais Marseille était à 2 points par match et finit 2e. C'était là aussi plus élevé. C'est vrai que c'est une saison où ça s'est tassé derrière le PSG. Et je ne parle pas des saisons où il y avait par exemple le Nice de Favre ou de Puel qui était à 75-76 points et qui n'a pas celui de Puel, mais en tout cas celui de Favre était assez haut placé. Ouais, c'est une saison sur le plan des points qui est assez moyenne. Christophe, qu'est-ce que tu veux donner comme appréciation à l'AS Monaco?
J'ai mis « A soudain eu le déclic pour se remettre dans le droit chemin, mais pouvait faire mieux. Celle de Florent est sans doute meilleure avec les examens. Pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit. J'ai l'impression que là, il y a une surperformance liée aux individus, qu'il y a eu une sous-performance liée en partie aux individus en début de saison, et que Clément a voulu trop imposer sa patte avec son 4-1-4-1 hyper coupé en deux quand il est arrivé, et que finalement, c'est... Alors, encore une fois, le retour de Golovin, etc. Enfin, il bénéficie aussi, Fofana qui revient bien, de qualités individuelles qui sont plus propices au fait de simplement mettre les joueurs en chaussons dans les meilleures conditions et ensuite ils te gagnent les matchs. Mais c'est vrai que le moment où il a voulu imposer sa patte, finalement, c'est le moment où Monaco a un petit peu perdu le fil. Et je pense que Monaco était un petit peu aurait dû avoir plus de points avant et devrait en avoir moins maintenant. Je pense que la série de victoires est quand même hyper bien payée, mais au final c'est quand même une forme de retour à la normale pour ce qui est sans doute le deuxième meilleur effectif de la Ligue 1 à mon sens.
Oui, il y a quand même quelques victoires bien payées. À Lille, ils ont 0,30 XG, ils gagnent 2-1, alors que Lille en est à 0,9. À 3, contre 3 à domicile, pardon, ils gagnent 2-1 avec 0,4 XG. Et à Rennes, ils s'en créent pas mal, mais ils en concèdent aussi pas mal et ça tourne bien pour eux.
Oui, si tu prends les expected points sur leur série de... Donc là, ils en sont à 9 victoires d'affilée, il me semble. Ouais. Si tu prends les expected points sur cette série-là, je crois qu'ils ont 8 ou 9 points de plus que prévu. Voilà.
Ouais. Après, quand t'as Tchouaméni qui claque une frappe
à Lille, ouais. Rentrant, bah, deux même.
25 mètres, oui, ça aide aussi. Une pied gauche, une pied droit. Ouais,
c'est ça.
Ça aide aussi d'avoir un joueur comme ça. Qui ont été, avec Ben Yedder et Tchouaméni, ils ont quand même eu deux joueurs clutch sur leur fin de saison, qui devraient les amener, si tout tourne bien, lors du dernier match à Lens, en Ligue des Champions. La première place, celle du Paris Saint-Germain, champion de France, à nouveau, dans une ambiance particulièrement festive dans la capitale, sur ce titre. Vraiment, on n'avait pas vu ça depuis des années. Un peuple ravi de ce titre. 25 victoires en 37 matchs, 8 matchs nuls, 4 défaites, 85 buts marqués, 36 buts encaissés. Donc c'est à la fois la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense du championnat. Voilà. Mais bon, on en a déjà parlé 1000 fois, Christophe, de cette saison du PSG. Elle est difficile à réduire à la Ligue 1, parce que c'est un club qui ne peut plus se réduire à la Ligue 1, et c'est d'ailleurs un problème. Mais par contre, sur le plan du jeu, et c'est là qu'on peut faire la comparaison avec Rennes qui a beaucoup moins de points et qui a peut-être raté la Coupe d'Europe, mais sur le plan du jeu, ça a été une saison, par rapport à ce qui se produisait ces dernières années avec Tuchel ou avec Blanc, ou même avec Emery, ça a été une saison en enfer sur ce qu'on a vu du PSG.
Alors, si tu me demandes l'analyse version courte du PSG, je te dirais Kylian Mbappé, et puis je donnerai la main à Florent.
Oui.
Si tu me demandes l'analyse un petit peu plus longue, ce serait... vainqueur de la Ligue 1, un peu par défaut malgré tout, parce que, alors, forcément les totaux de points sont toujours influencés par les scénarios de la saison, n'empêche que là, 83 points, une journée de la fin, ça finira à 86, c'est vraiment très loin des standards, même européens, du foot actuel.
C'est à peine plus que Lille la saison dernière, qui était déjà un champion
plus bas que...
C'était une grande saison lilloise, mais c'était une petite saison parisienne, 82 points.
C'est aussi pour ça que, alors ça n'a rien à voir, mais en même temps, enfin... Dans tous les cas, on a déjà tellement parlé du PSG que y a beaucoup de gens qui disent oui, les investissements de City, etc. Genre, vous faites les fanfarons parce que ça gagne quelques matchs, etc. Au final, City n'a pas de Ligue des Champions, Paris n'en a pas non plus. C'est vrai, mais en même temps, City est obligé de faire 100 points ou pas loin quasiment chaque saison pour gagner la Première Ligue. Si Paris était en Première Ligue, cette équipe ne serait pas souvent championne face à Liverpool. Donc c'est aussi ce niveau-là d'adversité qui demande beaucoup plus de planification sportive assez précise du côté de City. Là où Paris, la preuve en est, tu peux alors pas forcément faire n'importe quoi sur le plan du mercato. Je pense qu'il y a eu aussi quelques bons coups, Nuno Mendes notamment. C'était assez intéressant. Danilo, bon, c'est la saison d'avant, hein, mais finalement trouve sa place. Mais tu peux ne pas vraiment avoir de jeu identifié, etc. Et ça peut suffire, pas tous les ans, mais à être champion sans trop trembler. Mais saison qui n'intéresse, j'ai l'impression, personne. Puisque avant, tu m'aurais pu me dire, oui, ça intéresse quand même les Parisiens. J'ai l'impression que même les Parisiens ne s'y intéressent plus. C'est assez difficile à lire et la saison, elle s'est terminée en gros quand il y a eu l'élimination face au Real. Paris, heureusement, pour Paris, il y a eu d'autres équipes qui ont fait à peu près pire, ou en tout cas pas loin, sur les éliminations au tour suivant en Ligue des Champions. Donc du coup, on ne retient pas que celle de Paris face au Real, on retient plus le Real immortel que Paris s'est une nouvelle fois sabordé. Mais Pochettino, j'ai l'impression, a un peu arrêté de coacher il y a un moment. Et sur le plan tactique, il y a le truc qui m'intéresse le plus. Il n'y a pas eu grand-chose. Ça m'a fait marrer de voir le coup de cœur tactique de Julien Momon là cette semaine sur la complicité entre Messi et Mbappé, où j'ai l'impression, alors j'ai pas vu tous les derniers matchs parisiens, j'ai l'impression que c'est le meilleur match qu'ils font tous les deux. Vraiment, ils se créent 10, je sais pas, 10 occasions l'un pour l'autre pendant le match. Bon, face à un adversaire qui est déjà en vacances, mais tu dis, ah, c'est con, ça arrive à la 37e journée. Vraiment, cette relation avec l'un qui décroche et l'autre qui prend la profondeur, là où on pouvait quand même espérer que des joueurs de ce niveau-là, sans même inclure Neymar dans l'équation, auraient pu faire ça relativement tôt. Et je pense que même sans structure collective hyper aboutie, on aurait quand même pu prendre du plaisir s'il y avait eu deux extraterrestres sur toute la saison et pas seulement.
Ton appréciation, Florent, pour continuer sur le Paris Saint-Germain, une équipe qu'on va pas non plus traiter en longueur, puisque je pense qu'il y a au moins 15 épisodes de Vue du Banc qui s'appliquent au PSG cette saison.
Oui, du coup, je vais faire court. J'aimerais étudier la possibilité d'une réorientation dans une école spécialisée.
Spécialisée en quoi?
Là, c'est pour parler de la Super League. Voilà. Mais non, oui, parce que bon, il y a Mbappé, en effet, 26 buts, 17 passes D sur Understat. Alors, Understat n'a pas toujours les mêmes décomptes que tout le monde sur les passes décisives, notamment.
Mais je crois que c'est bien ça.
Mais voilà, bah, il était déjà pour beaucoup dans la saison dernière. On pouvait se demander si Paris sans Mbappé aurait fini dans les 4. Cette année, je pense que Paris aurait quand même été champion, vu que ça, voilà, on l'a évoqué à l'instant, ça va beaucoup moins haut en termes de nombre de points derrière. Néanmoins, il fait toute la saison du PSG quasiment tout seul, et tu n'as aucun enseignement particulier à trouver derrière. Alors Messi qui fait une saison catastrophique par rapport à ses standards barcelonais, notamment à la finition, parce qu'en termes de passes dé, je crois qu'il y a 12, il me semble, là aussi sur Understat, je crois que c'est ça le
Même
chiffre.
si 12 passes dé en Ligue 1, c'est pas non plus la
C'est
folie,
pas
mais c'est
non
vrai
plus
que
la
c'est quand
folie.
même mieux que ses buts.
C'est quand même mieux qu'en effet que les buts. Je crois que ça doit être une des premières fois dans sa carrière qu'il sous-performe à la finition, même si en XG ça monte pas non plus très très haut. Mais voilà, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Christophe. C'est une équipe qui ne m'intéresse pas en Ligue 1, tout simplement. Je la vois parce que ça peut être divertissant parfois, selon les adversaires. Mais globalement, je suis pas du tout client. Et de toute façon, comme il le disait, quand on regarde les matchs, nous, c'est particulièrement pour voir s'il y a des choses à retenir sur le plan tactique. Et on n'a rien vu de la saison, quasiment, côté parisien, sur ce plan-là. En Ligue 1, il y a eu le match aller face au Real qui était très intéressant. Mais sur la Ligue 1, pas grand-chose. J'aimerais plus d'adversaires capables d'aller les chercher, d'aller les pousser dans leur retranchement, d'aller les agresser, comme l'a fait Lens pour faire match nul, comme l'a fait
Nantes.
Nantes pour gagner. Mais voilà, j'aimerais.
Et Bordeaux au Parc, grand match.
Ouais, magnifique, magnifique. Mais typiquement, oui, je pense que toutes les équipes de Ligue 1 maintenant devraient jouer Paris en se disant on va aller les chercher, on va les bousculer, parce que je pense que vu la défense aujourd'hui parisienne, t'as plus de chances de les mettre en difficulté. Mais bon, ça, pour ça, faut oser un petit peu.
Même ressortir, hein, parce que tu peux ressortir contre cette équipe vu
Oui,
qu'elle ne te presse pas
absolument.
tellement.
Même
Voilà,
3
et
arrive à le
Monaco.
faire.
Et Monaco l'a fait, et Monaco, il s'est créé beaucoup d'occasions contre le PSG.
Même Saint-Étienne d'ailleurs, quand Saint-Étienne perd à la dernière seconde sur le but d'Icardi, il me semble. C'était bout de bouse en 6 et sous Puel, et ça ressortait tous les ballons. Donc,
Saint-Étienne perd la dernière seconde sur un but
ou
d'Icardi.
égalisation, il me semble. C'était un match
Je pense que
du dimanche 13h avec un but de Paris à la dernière seconde.
parce que Nantes, Saint-Étienne a perdu 3-1 à l'aller. Ou à un moment 3-1. Attends, je suis en train de
Non,
vérifier
c'est au
si c'était
retour
3
le
ou 4.
3-1. Il y a
Ah, bah peut-être
3-1
qu'ils
là.
prennent deux buts dans les derniers instants alors.
Oui, ils perdent dans le dernier quart d'heure. Mais il n'y a pas
Ouais, dans le dernier
d'Icardi,
quart
non.
d'heure.
Ils perdent dans le
Ah,
dernier
ok.
quart d'heure. Mais ils sont à
Ouais,
10
bon, écoute,
aussi.
je dis n'importe quoi, c'est pas grave.
Parce qu'ils
Mais
perdent deux
pour
fois
rejoindre,
3-1 cette
Saint-Étienne
saison.
mène à la mi-temps 1-0 et c'est Kolo Dziadzia qui se fait expulser juste avant la pause. Et Paris revient
Ah
en deuxième
oui.
mi-temps.
Et
Voilà.
il y a but sur le coup franc, il me semble. Qui
Il te semble.
suit l'expulsion. Oui, bon écoute, je dis n'importe quoi, c'est pas très grave.
De toute façon, il est temps d'en finir.
J'ai donné mon dernière appréciation quand même pour Paris.
Vas-y.
Puisqu'on boucle cet épisode qui part en sucette complètement. Et j'ai mis s'ennuie parce qu'il estime que les cours sont trop faciles, mais se ferme des portes dans l'enseignement supérieur.
Oh, c'est beau. Ouais. C'est beau, on va finir là-dessus, on pourra pas me dire mieux. Merci messieurs pour cet épisode, cette deuxième partie du conseil de classe de la Ligue 1. On se retrouve quand et pourquoi, Florentin Unti? Je te pose une colle.
Oui, tu me poses une colle parce que je sais pas exactement. Au plus tard, on va se retrouver pour la finale de la Ligue des Champions. Enfin, l'après-finale de Ligue des Champions.
C'est vrai qu'il y a ça.
D'ici là, peut-être un épisode, mais on verra, on sait pas trop. Donc,
je sens qu'il y a la finale de Ligue Europa, mais je suis pas sûr que Francfort Rangers, ça mérite un truc dédié.
C'est ça.
Même si j'adore Francfort. Hein.
Donc on va voir. Suspense. Mais au plus tard, ça sera après Real Liverpool.
Très bien. Merci messieurs. À bientôt pour un nouvel épisode de Vue du
Ciao.
Banc. Ciao.
Cordialement. Thank you.